Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, l'Intégral Foot, Ligue 1, nous sommes ensemble comme tous les samedis soirs de 19h à 21h avec le grand, l'unique, Coach Courbis, à mes côtés pendant 2h, salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
C'est la suite de la 29e journée de Ligue 1, Toulouse-Lille, ça vient de partir, 3 minutes de jeu, 0-0, on va retrouver Romain Malric d'ici quelques secondes. Je rappelle le résultat du choc du week-end, le carton de Monaco face à l'Olympique de Marseille, victoire 3-0 des Monégasques, supporters marseillais et monégasques, on vous attend au 32-16, un grand débrief jusqu'à 20h. Ce soir, ce sera Strasbourg-Nice à 21h05. Avant-match dès 20h sur RMC. Il y aura également de la Ligue 2 avec ce Grenoble PFC et puis les autres directs. Le rugby, quart de finale de Champions Cup, Northampton-Castres et la Formule 1 avec la fin des qualifs du Grand Prix de Bahreïn. C'est parti pour l'Intégral Foot. On y va tout de suite. Salut Romain Malric pour ce Toulouse-Lille. Salut Romain.
Salut Benoît, salut coach, 0-0 entre le TFC et Lille, on joue depuis 4 minutes seulement, départ timide hein, pour l'instant entre les deux équipes, première frappe de Yenbo pour les Toulousains après 2 minutes de jeu suite à une perte de balle un peu bête de la part du défenseur central lillois Alessandro, mais pour l'instant ce sont surtout les Lillois qui ont la balle et qui essayent de trouver une faille dans cette défense toulousaine plutôt bien en place pour l'instant avec du vent quand même au stadium, ça a signalé, ça va peut-être un peu contrarier le jeu cet après-midi, mais si les conditions sont bonnes, il fait plutôt bon à Toulouse, le soleil était voilé aujourd'hui, on espère que la pluie ne va pas tomber dans la soirée mais par contre le vent souffle de plus en plus fort et ça peut perturber notamment les relances 0-0 en tout cas entre les deux équipes depuis le début de la partie.
Et on revient rapidement, tu nous appelles s'il se passe quelque chose entre Toulousains et Lillois. Le rugby, quart de finale de Champions Cup, on rappelle la qualification de l'UBB pour les demi-finales en ce moment. Castres est sur la pelouse de Northampton. Salut Pierre Thévenet.
Salut Benoît, salut à toutes et à tous. C'est compliqué pour les Castrais dans ce début de match. 15-3, c'est le score en faveur de Northampton. Deux essais à 0,26e minute de jeu. Arbitrage vidéo en cours pour l'arbitre Andrea Piardi pour voir si les Castrais sont parvenus à réagir. Peut-être un essai de Jérémy Fernandez. Ça s'est joué à quelques centimètres devant la ligne. On va attendre la décision de l'arbitre. Pour l'instant, les Castrais sont menés 15-3. Ils se sont replacés, en tout cas, comme si l'essai avait été marqué. On joue la 26e minute.
Un très bon coup franc pour les Toulousains.
Allez, vas-y, rapidement, Romain, vas-y.
Un très bon coup franc pour les Toulousains avec une charge, elle n'avait pas l'air très sévère, mais une charge dans le dos de Franck Magri, le buteur toulousain du moment, 5 buts sur les 5 derniers matchs. Il était à l'entrée de la surface de réparation, monsieur Brizard n'a pas hésité, c'est presque un pénalty vraiment, là, le ballon est vraiment dans l'axe du but de Lucas Chevalier donc à 20 mètres à peine, et c'est, me semble-t-il, est-ce que c'est Vincent Siro, le capitaine toulousain, qui va s'en charger? Il y a Randonome également pas loin, il y a Gabriel et le Soiseau aussi peut-être de son pied gauche. C'est finalement Siro, le poteau, le poteau qui ce ballon qui effleure le poteau droit de Lucas Chevalier. Il n'a pas bougé hein, le gardien lillois, mais ça passe à côté malheureusement.
Il a dû regarder Arsenal.
Ouais, exactement. Et cette belle combinaison.
Ah, il l'aurait mis de l'autre côté. Si ça avait été Arsenal, il l'aurait mis de l'autre côté. Là, il l'a mis côté fermé.
Et on en reste à 0-0. L'autre direct, c'est la Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Bahreïn avec le King, Jean-Luc Roy, en studio avec nous. Où en est-on exactement?
Salut Benoît, salut coach. Et rebonjour à tous. Salut. Eh bien, il reste 3 minutes la pile. Donc, c'est maintenant que ça va se jouer. Pour le moment, la pole, elle est entre les mains d'Oscar Piastri, le jeune Australien de l'équipe McLaren. On rappelle évidemment que Piastri, il avait signé sa première pole il y a peu, la première de sa carrière, le pilote de Formule 1, il devance, c'est une surprise, George Russell à 131 millième. On a ensuite Lando Norris, l'autre McLaren, et puis Charles Leclerc, la première des Ferrari, très très loin, à plus d'une seconde. Tsunoda s'en sort bien pour le moment, il est cinquième devant Gasly, sixième, Sainz septième, Verstappen huitième, mais Antonelli et Hamilton ont eu leur temps annulé. Apparemment, ils étaient sortis de la piste, donc on attend, on saura dans moins de deux minutes.
Excellent. Et on sera avec toi pour
venir. Et l'essai castré est validé, Benoît. L'essai castré validé pour Jérémy Fernandez après arbitrage vidéo transformé par ce même demi-mêlée Jérémy Fernandez. Ça fait 15-10 pour le score. Les Anglais dominent largement, mais finalement, les castrés ne sont qu'à 5 petits points après 27 minutes de jeu.
Il y a match entre Northampton et Castres. Une pluie directe sur RMC dans l'Intégral Foot. Et le résultat qui vient de tomber, le coup de massue pour les Marseillais, la défaite 3-0 en principauté face à l'AS Monaco. On retrouve à Louis II, Aurélien Tiercin. Salut Aurélien.
Salut Benoît, salut à tous.
C'est vraiment le terme, un coup de massue des Marseillais qui doivent être totalement abattus après ce lourd revers à Monaco.
Bah, c'est la quatrième fois consécutive que l'OM prend 3 buts à l'extérieur. C'est l'ombre de l'équipe qui était la meilleure, justement, loin du Vélodrome, la meilleure équipe d'Europe il y a encore quelques semaines. Le semblant de renouveau face à Toulouse.
Le poteau de Franck Magri. Encore une fois, une super occasion des Toulousains qui récupèrent le ballon. Donnum qui donne à Magri dans la surface de réparation. Le plat du pied droit du buteur toulousain, mais qui s'écrase sur le poteau de Lucas Chevalier, ouais, qui n'avait pas bougé là encore. C'est encore une grosse occasion pour les Toulousains. Ouais. Mais toujours 0-0 au Stadium de Toulouse.
Il est en difficulté, ouais.
On a quand même l'habitude de voir un petit peu des occasions dans des matchs de football. Quand tu vois une occasion comme ça, tu n'as aucun commentaire à faire. Tu ne sais pas quoi dire. La chance, ouais, pas la chance, la malchance. Parce qu'en plus de ça, c'était l'ouverture du score. Et l'ouverture du score dans un match de football, ben c'est quand même quelque chose de très important.
Ouais. Aurélien, le mot de la fin, ouais. Donc les Marseillais abattus et puis la belle opération pour Monaco aussi. Il faut
Signaler, oui, surtout l'OS Monaco, deuxième du classement, ouais, avec un point d'avance sur l'OM, mais surtout une différence de but de plus 22 quand l'OM retombe à plus 16. Il y aura la pression de Strasbourg, de Lyon. Strasbourg qui joue ce soir contre Nice, de Lyon qui joue demain à Auxerre. Et surtout, on va voir la réaction de Roberto De Zerbi qui avait essayé beaucoup de choses pour remobiliser son groupe, qui avait tapé fort en obligeant les joueurs à rester à la commanderie après la défaite à Arte.
Ouais, peut-être que ce soir ils vont rentrer en stop.
C'est ça la punition, peut-être. Bon, rentrer à pied ou en footing, t'imagines. Merci à Aurélien qui va filer aux réactions. Vous entendrez les premiers mots de Roberto De Zerbi, ceux également d'Adi Hutter, la victoire de Monaco 3-0. Bon, supporter monégasque. Vas-y, Aurélien, t'inquiète pas.
Ah, pardon.
Supporter monégasque et marseillais. On vous attend au 32-16. Tu reviendras nous faire un résumé de ce qui s'est dit en conférence de presse d'après-match. 19h09 sur RMC. L'intégrale foot avec Coach Courbis et le tour des directs. On va peut-être se concentrer sur la fin de qualif, la fin de la Q3 en Formule 1, parce que c'est maintenant que ça va jouer, Jean Lecroix.
Et absolument, Benoît, ça y est, le drapeau d'habillé, ça va. Maintenant, on va attendre que les pilotes terminent leur tour et Russell s'empare du meilleur temps. Ça, c'est incroyable. A priori, il devrait rester là parce que, ah non, j'observe que ça y est, Piastri est en amélioration. Il est passé juste avant que le drapeau d'habillé tombe. Leclerc qui remonte au deuxième rang, tu vois. Faut toujours attendre un petit peu. Voilà, ouais, on va voir Piastri, on va voir Norris également. Norris n'a pas amélioré dans le premier secteur, mais Piastri, oui, Gasly se hisse pour le moment au quatrième rang. C'est incroyable avec la Alpine. Pour le moment, on aurait Russell Leclerc, Antonelli, Gasly, mais attention, Piastri, voilà, Piastri fait le meilleur deuxième secteur maintenant. Oscar Piastri devrait remonter évidemment, peut-être au premier rang. On va voir, il a pris déjà un petit peu d'avance sur son équipier Norris qui ne devrait pas être en mesure de le battre dans le troisième secteur. On va attendre le temps de Piastri, c'est lui a priori, hein, le futur pole man, s'il termine au niveau des premiers, deuxième secteurs qu'il a effectué maintenant. Voilà, et bien c'est lui, 1.29. 841, il repousse Russell à 168 millième. On va attendre quand même que Norris en termine. Voilà. Ah, Norris, c'est un peu raté hein, dans le troisième secteur. Il me reste Sainz maintenant. Carlos Sainz est dans le troisième secteur. Il n'a pas terminé pour le moment. Le voilà, il termine huitième. Est-ce que Lewis Hamilton, non, n'améliorera pas. Et Yuki Tsunoda, a priori, non plus. Ben voilà, la grille, Benoît, ouais, avec la pole d'Oscar Piastri, la deuxième pole de sa carrière de pilote de Formule 1. Donc, un très très beau résultat, évidemment, pour le jeune pilote australien. Et sa McLaren, il devance, et ça c'est une surprise, George Russell avec la Mercedes sera sur la première ligne à ses côtés. Deuxième ligne composée de Charles Leclerc et de Antonelli, ouais, donc très beau résultat du jeune pilote italien de Mercedes. Pierre Gasly est un excellent cinquième avec Lando Norris seulement sixième, c'est la déception, tout comme Verstappen seulement septième, Sainz huitième, Hamilton neuvième et Tsunoda dixième.
Merci Jean-Luc.
À des millièmes.
À des millièmes, eh oui, Roland.
Bientôt, ce sera des millionièmes.
Et peut-être.
Allez, on va peut-être
y arriver. On y sera.
Non, mais c'est vrai.
Et le Grand Prix à suivre demain, ça va être passionnant vu la grille, hein, là, Jean-Luc.
On
annonce du grand spectacle à Bahreïn.
Absolument. Ouais. Ah ben là, c'est certain, parce que là, étonnamment surpris. Bon, une McLaren est devant, mais derrière, on savait les Mercedes potentiellement en puissance. Ouais. Mais Leclerc, c'est très très bien ce qu'il a fait. Et puis Pierre, n'en parlons pas. Pierre Gasly, cinquième avec l'Alpine.
Le Grand Prix à quelle heure demain, Jean-Luc?
Le Grand Prix à 17h demain.
17h demain. Merci Jean-Luc. La voix de la F1 sur RMC. On va se régaler demain 17h. Le grand rendez-vous sport de demain, c'est le Paris-Roubaix à suivre en direct depuis Vélodrome de Roubaix, avec toute la Dream Team d'RMC, notamment Christophe Cessieux, Maria Azé, Jérôme Coppel. Vous allez vous régaler sur ce Paris-Roubaix. Soyez bien à l'écoute. 19h12 sur RMC. Retour à Toulouse. Toulouse-Lille, le temps, le score, Romain Malric.
À 12e minute de jeu, toujours 0-0 entre le TFC et Lille, malgré les deux poteaux pour les Toulousains.
Et puis le rugby aussi, la Champions Cup, le quart de finale entre Northampton et Castres, Pierre Thévenet.
Ça n'a pas bougé. 32e minute de jeu, 15 à 10, toujours en faveur de Northampton. Et à l'instant, le troisième essai anglais, marqué par Alex Coles, le deuxième ligne de Northampton sur un ballon porté. Petite combinaison parfaitement effectuée. Le numéro 5 de Northampton va derrière la ligne sur le côté gauche de l'attaque des Anglais. 20 à 10, donc avant la transformation de Finn Smith. On joue la 32e minute ici au Franklin's Garden de Northampton.
19h12 sur RMC, on rappelle le résultat de l'après-midi, la défaite, ou plutôt la victoire Monaco contre Marseille. 3-0, Marseille dans le doute. Monaco qui reprend la deuxième place de Ligue 1, supporter monégasque, supporter marseillais. On vous attend au 32-16 avec coach Courbis pour débriefer cette rencontre. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h18 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 21h, la suite de la 29e journée de Ligue 1. Rappelons la victoire de Monaco face à l'OM. 3-0, Monaco reprend la deuxième place de Ligue 1. On vous attend, supporters monégasques et marseillais au 32-16. Je vois Choukri qui attend pour débriefer ce cauchemar marseillais. Hein, on arrive dans quelques secondes. Le match en direct, c'est Toulouse face à Lille, Romain Malric.
18e minute de jeu, honnêtement on a attendu qu'on ne soit plus en pub hein, du côté de Lille qui a fait une conservation de balle. Non mais c'est impressionnant, une conservation de balle totalement stérile pendant les 6 minutes depuis qu'on s'est quitté. Donc 0-0 toujours entre le TFC et Lille.
Et on rappelle le début de match, les deux poteaux trouvés par Toulouse qui auraient pu ouvrir le score par deux fois. Roland, tu me disais d'ailleurs, vu la réussite de Lille, ça peut impacter toute la rencontre.
Quand tu as une match comme ça et qui démarre et que tu as un poteau, une barre. Ben, tu te dis que c'est peut-être ta soirée, et c'est pour ça que je vois pas, peut-être pas Lille gagner ce match, mais je vois pas Lille perdre ce match.
Autre en tout cas, dans l'intensité, coach, dans l'intensité du match, on se pose la question quand même si vraiment Lille a un enjeu, parce que je trouve que l'intensité a été plutôt mise par les Toulousains sur le début de match que par les Lillois qui vraiment démarrent timidement au niveau de la vitesse de jeu.
On est d'accord, mais comme je pense que le rythme mis par Toulouse, il va pas pouvoir se faire à 95 minutes. Ce qui va se passer pour Lille dans les minutes qui arrivent, ben je pense que ça va être un Lille qui va progresser, qui va monter le niveau. Mais bon, après, je te donne mon point de vue, je peux me tromper, bien évidemment, heureusement. D'ailleurs.
On peut rappeler l'enjeu sportif pour Lille. En cas de victoire des Lillois à Toulouse ce soir, Lille reviendrait à 2 points du podium, à 2 points de l'Olympique de Marseille. Ça serait quand même une sacrée opération, même s'il faudra attendre les matchs de Strasbourg ce soir face à Nice et de Lyon demain à Auxerre. 19h19, le rugby également, quart de finale de Champions Cup entre Northampton et Castres, Pierre Thévenet.
À 2 minutes de la mi-temps, les Anglais qui mènent 20 à 10 dans cette rencontre, 2 essais à 1, et les Castrais beaucoup beaucoup trop pénalisés dans cette première période. Léoné Nakarawa vient de prendre un carton jaune, notamment pour une accumulation de fautes. Les impacts sont rudes dans cette rencontre et pour l'instant les Anglais sont devant de 10 points, 20 à 10. Le jeu est arrêté puisque Henry Pollock, la future star du rugby anglais, le troisième ligne, est resté au sol après un gros plaquage de Louis Lebrun. 20-10 en faveur de Northampton. Il reste un peu plus de 2 minutes en première période.
19h20 sur RMC. Roland, on y va pour le débrief de ce Monaco-Marseille. On accueille Choukri, supporter marseillais au 32-16. Salut Choukri.
Salut les gars.
Oh, la frappe de Fernandez, pardon. Coach avait raison. Choukri. Il a suffi d'une étincelle du côté lillois. La première fenêtre de tir. Fernandez Pardo, qui a, pour le coup, il l'a fait tout seul. Là, c'est pas vraiment un travail d'équipe. C'est lui tout seul. Il a pris le ballon. Il s'est engouffré au milieu de terrain. Il est venu quasiment à l'entrée de la surface de réparation. Et la frappe du pied droit, quasiment dans la lucarne de Guillaume Rest, qui ne peut rien faire. Ouverture du score lilloise après 21 minutes de jeu.
Tu vois, on ne dit pas que des conneries.
Quel but, quand même.
Je savais, coach. Je savais.
Romain,
je m'en doutais que ça allait arriver. Je me suis dit, ça va arriver maintenant, c'est sûr.
Dans l'élimination, dans la frappe de balle et tout, c'est magnifique, Roland, hein, ce que fait Fernandez Pardo.
Extraordinaire.
Oh là là, quelle frappe. Et Lille qui prend l'avantage. Choukri, on n'est pas parti pour une grande journée quand on est supporter marseillais, là. Là, c'est un coup dur. Un de plus.
Ouais, c'est un coup
dur. Salut Choukri, dans tous les cas, ça nous fait plaisir de t'entendre. Et donc, on va pas te demander comment ça va. Mais par contre, c'est toujours un plaisir de t'entendre.
Voilà.
Merci, Roland. Non, ça va pas, franchement. Franchement, là, on nous parle depuis le début de saison de la méthode des Herbies. La méthode des Herbies, elle est où? La méthode des Herbies, elle est où? C'est quoi sa méthode? Notre équipe, elle est lisible. Tout le monde sait comment on joue. On n'a pas de défense. Il y en a marre. Je suis fatigué, là, de l'OM. Là, ils sont en train de m'épuiser. Là, c'est fatigant. C'est deuxième tout au long de la saison. Et là, t'es là à 5 matchs de la fin. T'es en train de t'écrouler. 4 défaites sur les cinq matchs. Ouais. T'as pas de défense. Et on nous parle de la méthode des Herbies. Mais elle est où, la méthode des Herbies? Elle est où, la méthode des Herbies? Il n'y a aucune méthode des Herbies.
Toutes les équipes ont compris comment on joue. Toutes les équipes savent exactement comment il faut jouer contre l'Olympique de Marseille. Et tous les matchs, c'est la même chose. Tous les matchs, on voit la même chose. Elle est où la méthode de Zerbi? Elle est où de Zerbi? Ça aurait été un autre entraîneur, on l'aurait viré au bout de 2 mois. Et là, De Zerbi, il est là, il va nous expliquer quoi encore?
Ah, justement.
Il nous fait 1 milliard de changements. À la mi-temps, on est là qu'il a l'impression qu'il veut trouver la formule magique. On a l'impression qu'à chaque fois, on doit attendre un joueur individuel comme Greenwood qui passe la différence. Il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas d'équipe. C'est une équipe individualiste. On a Mbemba qui est à la cave. Mbemba, ça fait, je sais pas, pourquoi? Pourquoi Mbemba ne fait pas jouer? T'as pas de défense? Je sais pas, je comprends pas, j'ai tout dégoûté. Là, ils sont en train de, l'Olympique de Marseille, ils sont en train de me dégoûter. Ils sont en train de nous toucher. On était là cette année. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, les gars. Il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année. Il y a un match par semaine. Tu vas me dire quoi? Qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, les joueurs, en faisant un match par semaine. Non, c'est pas possible, là. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Je suis désolé.
On espère que ça te fait du bien de vider ton sac sur RMC en direct. On imagine que c'est aussi l'humeur de tous les supporters marseillais ce soir. Roland, est-ce que tu rejoins un peu Choukri? Est-ce que c'est avant tout la défaite de Desarbi ce soir en principe?
Ben, disons que bon, moi je serais moins sévère que Choukri. Mais bon, c'est sûr que sur les 8 derniers matchs, on a regardé un petit peu.
5 défaites, 3 victoires.
C'est un parcours de 12 ou 13e ou 14e, ça. Donc c'est vrai que il y a des périodes où un entraîneur est inspiré, il y a d'autres périodes où un entraîneur n'est pas inspiré. C'est difficile à suivre effectivement ce que fait De Zerbi dans ses compositions d'équipe. Ce soir, bon, je veux bien que Mopé soit un joueur moyen, mais bon, un joueur moyen, correct, etc. Donc quand je vois ce soir la composition d'équipe et que notre numéro 9
c'est Rowe, Jonathan Rowe,
mais là il va falloir qu'il nous explique de Zerbi qu'un numéro 9 c'est un profil. Tu as par exemple 3 attaquants à l'OM, un en pointe, deux en retrait, et bien tu as un trio Gouiri et Greenwood en retrait et Mopé en pointe. Rabiot qu'il ait pu dépanner un match ou deux dans une position de ce que faisait, comme faisait Deschamps avec Matuidi. Rabiot peut-être, il peut jouer gardien de but aussi, pour dépanner ou arrière gauche ou arrière droit. Mais si par exemple on a le choix pour l'utiliser, y compris même quand Højbjerg n'est pas là, mais c'est en plein cœur de l'organisation, un rôle de 6-8, et là on maintient encore Rabiot dans ce poste de numéro 10. Eh bien lui, plein de bonne volonté, il le fait, mais c'est difficile à suivre. Donc là maintenant, il faut se reprendre, parce qu'après, ce qu'on vient de se prendre dans la tête, attention au dernier match, et attention aussi aux équipes comme Strasbourg, qu'on n'a pas pensé une seconde. Là, sincèrement, d'habitude, je fais la différence entre être préoccupé et être inquiet. Là, sincèrement, c'est pas que je suis inquiet. Je suis très inquiet.
Choukri, toi aussi, tu commences à t'inquiéter pour la Ligue des Champions, le podium, au moins, même plus la deuxième place, mais le podium pour l'OM. Ah, Choukri.
Je sais même pas si on va gagner contre Montpellier le week-end prochain, ça va?
Ah bah là ne pas gagner contre Montpellier au Vélodrome, voilà. Oui, là, c'est vraiment la crise.
Je sais même pas si on peut gagner contre Montpellier le week-end prochain.
Ouais, voilà. Mais t'inquiète pas, si Montpellier mène 4-0 à la mi-temps, tu sais que c'est pas fini. Hein.
Ça rappellera un bon souvenir.
Elle a pas de caractère, cette équipe, là, tu le vois bien. Elle a pas de caractère, Roland, cette équipe. En deuxième mi-temps, tu perds 2-0. Tu te dis, bon, ils vont rentrer en deuxième mi-temps, ils vont un peu, tu vois, ils vont un peu rentrer ils vont se salir un peu le short.
Tiens un tournant de match quand même. C'est ce plat de pied qui paraissait en plus assez facile de Luis Enrique. Ça faisait l'égalisation pas très loin de la mi-temps. Là, quand j'ai vu ce geste complètement décoordonné, et que le gardien de Monaco, il fait des gestes comme si c'était lui qui avait fait un arrêt. Mais c'est pas le gardien de Monaco qui a fait un arrêt sur cette action.
Ouais.
C'est Luis Enrique qui a raté son geste.
Ouais. Un grand merci à Choukri qui est venu au 32-16. Choukri, tu rappelles quand tu veux. On rappelle donc la victoire de Monaco 3-0 face à Marseille.
Choukri, on te rassure, l'OM battra Montpellier.
Voilà. Fais-nous confiance, Choukri.
Je sais pas. Sans compter qu'Orouli, il a fait encore des arrêts. On peut perdre 5-6-0 ce soir, je te le dis.
Allez, garde le moral, Choukri. Et puis appelle si ça va pas.
C'est le Titanic.
On sera toujours là pour te soutenir, Choukri. Ok.
On est en train de couler là.
À bientôt, Choukri. En tout cas, on t'embrasse malgré cette période difficile.
Bye bye. Salut Choukri. 19h27, c'est la mi-temps en rugby entre Northampton et Castres, Pierre Thévenet.
Et Castres s'accroche, dernière pénalité passée par Jérémy Fernandez, 20-13 le score à la mi-temps. Les Castres n'ont que 7 petits points de retard, même s'ils ont marqué 2 essais de moins que les Anglais de Northampton.
Merci, à tout à l'heure Pierre. Juste un résultat de MotoGP pour la course sprint qui vient de s'achever, c'était au Qatar. Tiens, bah, la voix des sports méca est toujours là, c'est Jean-Luc Roy qui est resté pour assister à ça, avec un doublé des frères Marquez. Hein.
Absolument, ça, c'est pas une grosse surprise. On savait que Marc, à part cette erreur lors du dernier Grand Prix, où il était en tête, hein, où il avait chuté, mais les sprints, il a aligné les victoires et devant son frère. Alors c'est le mystère d'un peu tout le monde, parce que on rappelle qu'il a une version 2024, hein, de la Ducati, pas le dernier modèle. Et Alex, bah, il termine à moins de 2 secondes de Marc. C'est vraiment du super boulot. C'est pour le moment domination absolue.
Merci Jean-Luc. On te retrouve demain 17h, le Grand Prix de Bahreïn. On rappelle la grille. Piastri qui partira en pôle devant Russell et Leclerc. La 5e place pour Pierre Gasly, qui a fait de super qualifications. Donc rendez-vous demain 17h pour du grand spectacle. 19h28, retour à Toulouse pour un match animé entre Toulousains et Lillois. Romain Malric.
Ouais, 28e minute de jeu, la réussite est lilloise. Depuis le début de la partie, les Lillois mènent 1-0 grâce à ce but de Fernandez Pardo à la 21e minute de jeu. D'abord Lucas Chevalier sauvé par deux fois par ses poteaux, un à droite, un à gauche, et puis ensuite en une seule frappe, et elle est belle, Mathias Fernandez Pardo qui fusille Guillaume Rest, qui met le ballon dans la lucarne de Guillaume Rest pour ouvrir le score pour les Lillois. J'ai presque envie de dire contre le cours du jeu,
bien sûr,
parce que ce sont les Toulousains vraiment qui ont les meilleures intentions, qui dominent en tout cas dans les situations offensives, pas forcément dans la possession, mais dans les situations offensives. On a vu même presque un petit moment litigieux, un pénalty qui aurait pu être sifflé en faveur des Toulousains. Monsieur Brizard a considéré que non, et la VAR ne l'a pas rappelé. C'était Messali qui s'était fait un petit peu bouger dans la surface de réparation. Les Toulousains sont donc dans le camp lillois, mais pour l'instant n'arrivent pas à tromper la vigilance de cette défense lilloise, avec notamment un très bon bafou des Diakité, ancien Toulousain, qui est resté très apprécié. Pichoun, qui est encore très apprécié ici dans les travées du stadium, qui malgré le non-enjeu du TFC quand même bien garni, 25 000 personnes qui sont venues aujourd'hui, et malgré le fait qu'il y a une tribune, il faut quand même le rappeler, qui est la tribune Brice Taton, où habituellement se mettent les Indians Tolosa, qui est fermée administrativement suite au jet de projectiles et de d'engins pyrotechniques lors de la réception du PSG, c'était en février dernier. 30 minutes de jeu et toujours 1-0 pour Lille.
Allez, 19h30 tout pile, on revient dans un instant avec coach Courbis, avec Romain en direct de Toulouse. Lille mène 1-0 sur la pelouse du TFC. On sera là pour la seconde période entre Northampton et Castres, et on vous attend au 32-16, supporters monégasques et marseillais, pour débriefer cette victoire 3-0 de l'AS Monaco. La belle opération pour les monégasques et le cauchemar qui continue pour l'Olympique de Marseille. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron.
19h31 sur RMC, l'intégrale Foot Ligue 1 jusqu'à 21h avec coach Courbis. C'est la suite de la 29e journée. Ce Toulouse-Lille en direct. La victoire de Monaco cet après-midi 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Je vois Cyril, supporter marseillais, qui nous attend pour débriefer ce match. Mais on va retourner tout de suite au stadium avec Romain Malric, où Lille mène 1-0, Romain.
32e, Lille mène 1-0. Lille pour l'instant donc revient à 2 points de l'OM, qui a donc été battu tout à l'heure à Monaco. Lille qui revient dans la course à l'Europe suite à une dégringolade au classement depuis cet hiver, depuis l'élimination notamment, et en Coupe de France face à Dunkerque et face au Borussia en Ligue des Champions. C'était un peu compliqué pour les Lillois qui dégringolaient dans ce classement, eux qui ont été souvent dans les places d'honneur, notamment des futurs qualifiés directs pour la Ligue des Champions. Peut-être que ce match à Toulouse va leur faire du bien pour remonter au classement, en attendant évidemment les autres résultats. Les Lillois qui pour l'instant maîtrisent les assauts toulousains, maîtrisent les différentes incursions. On sent qu'ils peuvent accélérer à tout moment. La première accélération, celle de Fernandez Pardo à la 21e, a fait mouche pour le troisième but du Belge depuis le début de la saison. La frappe dans la lucarne où Guillaume Rest ne pouvait rien faire, et les Lillois, on le disait, aussi un peu en réussite après les deux poteaux toulousains en début de partie. Justement, le LOSC qui est à l'attaque avec Benjamin André qui va remettre ce ballon dans la surface. La tête de Jonathan David qui ne peut faire autre chose que la décroiser et la mettre à côté du but de Guillaume Rest.
De reculer et pour pouvoir s'élever en sautant, en reculant, c'est quand même très compliqué.
Ouais, et Lille qui doit être soulagée de voir un autre buteur que Jonathan David, hein, Fernandez Pardo, qui a mis un sublime but pour ouvrir le score. Il y a une David dépendance, Roland. Dès que le Canadien va moins bien, et ben forcément Lille a du mal à marquer des buts. C'est ce qui s'est passé sur les derniers matchs. Là, ça fait du bien de voir un autre attaquant s'illustrer. Hein.
Absolument. Il y a toujours aussi ce joueur qui, personne n'est indispensable. Je le connais, ce dicton. Mais Zegrova, c'était quand même une arme pour ne pas dire l'arme numéro une.
Zegrova qui met beaucoup de temps à revenir d'une pubalgie, il reprend les séances collectives, mais
il est en phase de reprise, paraît-il. Exactement. Il est en phase de reprise, il pourrait rejouer le week-end prochain.
Entre rejouer et retrouver sa forme à 100%, ça c'est encore autre chose.
Il ne restera que 5 matchs après celui-là. Je rappelle juste un truc en rugby, quart de finale de Champions Cup, Northampton mène face à Castres 20-13 à la mi-temps. Rappelons la qualif de l'UBB face au Munster 47-29. Demain on aura Toulon-Toulouse à suivre à partir de 16h sur RMC. Le vainqueur de Toulon-Toulouse affrontera l'UBB
difficile
en demi-finale.
De voir un gagnant. Hein.
Ah ouais. Mais ça veut dire qu'on aura un club français en finale de Champions Cup.
Ben oui.
Ah, c'est beau.
Ça sera magnifique.
Allez, on va retourner rapidement au stadium avant d'accueillir Cyril, supporter marseillais. Romain, vas-y.
Ouais, 34e minute, les Toulousains avaient un ballon dans la surface de réparation. Il a été mal négocié, même si Donom a essayé de remettre ce ballon dans le paquet. Personne n'avait suivi côté Toulousain. Ce sont les Lillois qui repartent à l'attaque et qui essayent de construire avec André Gomes au milieu de terrain. Peut-être Haraldsson, là, qui a trouvé un peu de champ au milieu de terrain. Il va pouvoir jouer avec Becker sur le côté droit. Alors, on savait pas trop si ce serait Becker ou Fernandez Pardo à droite ou à gauche, parce que Becker, il est gaucher, mais il joue à droite. Hein. C'est la particularité de Bruno Genesio, qui le fait jouer souvent à droite pour revenir intérieur. C'est pareil d'ailleurs avec Donom côté toulousain. C'est un peu la mode.
Il se sert aussi de ses qualités offensives, alors que dans son passage, si je dis une bêtise, tu me dis, dans son passage au Paris Saint-Germain, on le voyait plutôt comme un arrière latéral à gauche. Ouais. Et là maintenant, on le voit comme pratiquement
comme un ailier droit,
dans la zone de Zegrova, à la place de Zegrova.
Ouais, c'est la surprise de la saison, vous avez raison. Mais il a été très performant, on ne l'attendait pas du tout là, et finalement il s'est montré performant, lui.
Bravo Bruno.
Passé par l'Atalanta Bergame notamment. 19h35, on surveille cette attaque lilloise, mais on va continuer de donner la parole aux supporters monégasques et marseillais. Après la victoire de Monaco cet après-midi, 3-0, Monaco reprend la deuxième place de Ligue 1. Autre supporter marseillais qui nous rejoint, c'est Cyril. Tiens, il a composé le 32-16. Salut Cyril.
Ouais, bonsoir à tous.
Salut Cyril.
Cyril, on a eu un Choukri, auditeur et supporter marseillais, abattu, effondré il y a quelques secondes. Est-ce que c'est ton état d'esprit aussi?
Oui, bon, je suis un peu énervé, hein, mais si vous voulez, ça fait plusieurs matchs là, que je regarde. Enfin, bon, je suis abonné dans les virages. Et on discutait avec Adri au téléphone et je voulais avoir votre avis par rapport à ça.
Adrien Standard, on salue.
Oui, voilà. Et en fait... J'ai l'impression, moi, au vu de tout ce qui se passe dans l'équipe, bon, moi, je forme des managers. Et j'ai l'impression que dans l'équipe, il y a, pour moi, quelqu'un qui a un comportement de pomme pourrie. De pomme pourrie.
Ah, ok.
Et c'est qui ? En fait, quand tu vois qu'une équipe comme ça, qui finalement tout allait bien, hein, tout allait bien, et puis là, d'un coup, plus rien ne va.
Oui, mais attends, excuse-moi de te couper. Quand tu parles de d'un coup, on dirait que ça fait une quinzaine de jours ou trois semaines. Ça fait 8 matchs. Sur les 8 derniers matchs, il y a 5 défaites et des défaites inquiétantes. Ouais. Et pas que des défaites, un demi-but à 0 et tout. Et 3 victoires seulement. Dans les 3 victoires, Nantes, enfin bref, Saint-Étienne.
Toulouse.
Donc Toulouse là sur le dernier match. Donc il y a quand même une inquiétude qui est une inquiétude logique depuis 8 matchs. Je suis désolé, je te réécoute.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, Roland. Après, voilà, moi, c'était pour avoir votre avis d'expert par rapport à ça, d'expert du foot, parce que c'est vrai que.
Mais t'as un joueur ou le coach en tête quand tu dis pomme pourrie, ou non, tu te poses la question?
Moi, franchement, alors, je t'avoue, l'autre jour, quand je regardais un peu par rapport au corporel, j'ai eu l'impression que pour moi, c'était plus quelqu'un comme Luis Enrique. Où je trouvais dans son comportement par rapport aux autres, bon, je suis vraiment sur un ressenti à travers la télé, tu vois. Mais.
Luis Enrique qui n'est pas en réussite ce soir. Il loupe la plus grosse occasion marseillaise et il couvre son deuxième but de Monaco.
C'est une occasion de légalisation.
Ah, de légalisation, tout à fait. Ouais.
Et je me demande, tu vois, si c'est pas lui, parce que je voyais les gestuels, le comportement qu'il y avait entre les uns et les autres. Et je crois que c'est Flo Germain, déjà, qui avait un peu parlé aussi du comportement de Luis Enrique,
Il était pas
Il avait été mis, il avait été écarté avant le match au Parc des Princes par De Zerbi en même temps que Mason Greenwood, hein, avant de retrouver sa place, Luis Enrique. Ouais. Après, je sais pas ce qu'en pense Roland, mais c'est difficile de taper sur un Marseillais plus que sur un autre. Roland, c'est une prestation globale. Il y en a pas beaucoup à ressortir, et c'est les choix surtout qui interrogent.
Chacun sa responsabilité. Donc, Luis Enrique, ok. Mais l'utilisation de Luis Enrique, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de discuter un petit peu? Luis Enrique, pour moi, en faire un piston côté droit, je dirais pourquoi pas. On a même Rabiot dans une situation de numéro 10, un genre de faux ailier gauche. Donc tout est possible jusqu'à une certaine limite. Là, sincèrement, chacun ses goûts. C'est difficile de donner son avis, mais bon, comme on est passionné, on le donne quand même. On ne voit pas les entraînements comme peut le faire de Zerbi, mais certaines utilisations des joueurs de l'OM, sincèrement, on peut se poser pas mal de questions. Et est-ce que de Zerbi, qui est certainement très compétent, et dans une période de forme, parce que la période de forme, la période où on est inspiré, c'est pas seulement pour les joueurs, c'est valable aussi pour les entraîneurs. Et certains choix de Zerbi, je suis désolé, on se regarde avec des amis à moi qu'on a quand même la prétention de connaître un peu.
J'en fais partie.
Et on est très surpris.
Cyril et Roland, si on regarde la compo d'équipe marseillaise cet après-midi à Monaco, on va regarder tous les joueurs qui jouent à leur poste. Rouli, oui, forcément. Kondogbia ne joue pas à son poste parce que c'est un milieu de terrain qui est reconverti en défenseur central. Garcia et Murillo, qui sont à ses côtés, ne jouent pas à leur poste. Ce sont des arrières latéraux au départ.
Ouais.
Rongier et Berg, eux, sont bien à leur poste parce qu'ils sont milieux récupérateurs.
Ouais.
Luis Enrique ne joue pas à son poste parce qu'au départ, c'est pas un piston. À la rigueur, ça peut se comprendre parce que ce sont des efforts à peu près similaires. Okay. Merlin aussi, piston gauche, ça peut se comprendre. Il peut jouer là. Rabiot ne joue pas à son poste, mais ça fait des mois que ça dure. Jonathan Rowe n'est pas un avançant, donc il ne joue pas à son poste. Ça fait un paquet de joueurs qui ne jouent pas à leur poste quand même, Cyril, tu vois. Au-delà des individualités, ça fait beaucoup quand même.
Je suis d'accord avec toi, et je rejoins aussi Roland qui dit qu'un entraîneur a le droit aussi d'être moins bon. Et je trouve qu'à Marseille, on ne laisse pas les gens travailler tranquille, et un manager a le droit d'évoluer, il a le droit de faire des conneries. Voilà, et effectivement, il doit se remettre en cause aussi. Et il faut aussi le laisser se remettre en cause, travailler.
Légalisation toulousaine.
Ouais, Romain, vas-y.
C'est Charlie Cresswell qui est venu mettre sa tête après un deuxième ballon. D'abord le centre qui arrive au deuxième poteau, mais Sali qui a remis ce ballon dans la boîte. Et Charlie Cresswell bien seul quasiment au point de pénalty pour décroiser cette tête et tromper Lucas Chevalier. Égalisation méritée pour les Toulousains à quelques minutes de la mi-temps.
Ouais, égalisation méritée, Roland, et enfin occasion qui est conclue. Un bon coup de tête, même si ça défend pas très bien côté Lillois. Hein.
Ouais, mais bon, là, c'est difficile pour le Chevalier d'aller la chercher. Donc je dis bravo, et c'est mérité. Hein, n'oublions pas quand même les deux poteaux de Toulouse.
T'as bien raison. Cyril, je te remercie. Bah, tu vois, ça te met peut-être un peu de baume au cœur parce que avec l'égalisation de Toulouse, ça met un peu moins de pression à l'OM pour le moment.
Ouais. Il faudrait qu'on se satisfasse de nous, nos victoires.
Ça c'est sûr. Ça c'est autre chose.
Ça va mieux. Merci les gars.
Merci à toi, Cyril.
Une surveillance vidéo.
Bonne soirée. Vas-y Romain, vas-y.
Salut.
Mais je vois que Monsieur Brizard attend avant de redonner.
Tu sais ce que j'ai vu? Je crois que Benjamin André réclame une faute sur lui. Il me semble que c'est
de Cresswell, peut-être.
Sur le centre, ouais. Je crois que.
C'est peut-être pour ça qu'il était tout seul.
Mais t'as raison.
Non, c'est validé.
Ah, voilà. Donc, un partout.
C'est validé.
Désormais entre Toulouse et Lille.
Ouais, c'est le troisième but de Charlie Cresswell depuis le début de la saison, le défenseur anglais qui monte en puissance un petit peu dans cet axe toulousain. Il avait très mal démarré sa saison, notamment le match ici à domicile contre Marseille où il était fautif sur quasiment tous les buts marseillais. Mais depuis, il s'est vraiment imposé dans cette défense centrale, et en plus, il a un très très bon jeu de tête défensif et offensif puisque c'est son troisième but cette saison. Ça négocie encore, mais l'arbitre a de toute façon, c'est Benjamin André, négocie encore, mais le but est vraiment validé.
et on va pouvoir repartir donc avec ce score de 1 but partout entre le TFC et Lille. On joue la 43e.
Ouais, il y a un premier duel entre les deux. C'est là que Benjamin André réclame une faute. Le ballon file au deuxième poteau. Il y a un deuxième centre. Et vu que Benjamin André est au sol, bien Creswell peut mettre sa tête, c'est ce qui est réclamé. Mais il n'y a pas de faute flagrante de ce qu'on a vu d'après les ralentis, Roland.
Ouais, donc c'est sûr que dans les 16 mètres, il y en a des tas et des tas de fautes comme ça. Peut-être ouais. qu'André accentue un petit peu la faute. Bon, allez, c'est quand même logique aussi dans ce qu'on a pu voir, notamment les deux poteaux, égalisation de Toulouse. Ben, c'est logique.
On va suivre la fin de première période en intégralité, puis on ira également voir Pierre Thévenet au rugby entre ce match entre Northampton et Castres d'ici quelques secondes. Mais retour au stadium, Pierre Thévenet avec Lille qui tente de réagir.
Ah, c'est Romain Malric, Pierre Thévenet, je crois qu'il est à Northampton.
Excuse-moi. Vas-y, Romain.
Mais Lille, justement, qui tentait en effet de réagir. Benjamin André qui est monté à l'attaque avec Fernandez Pardo qui a dézoné un petit peu, qui est sorti de son couloir gauche où il n'a pas touché beaucoup de ballons, à part celui du but à la 21e, la frappe dans la lucarne de Guillaume Rest. But, ouais. Magnifique but, son troisième de la saison. Ah, ce ballon perdu par Benjamin André au milieu de terrain. Benjamin André qui, alors, il est peut-être un peu fautif, indirectement fautif. Sur le but du TFC, mais quel patron au milieu de terrain, même depuis le début de la partie, j'observais parce qu'il ne se passait pas grand chose sur les dernières minutes, mais ça parle beaucoup quand même. Il place énormément ses joueurs. On sent bien qu'il ne se passe pas un coup franc, une relance, sans qu'il ait donné la consigne de où aller se jouer ce ballon. C'est vraiment un capitaine exemplaire du côté de Lille, Benjamin André. Ah oui. C'est un joueur modèle, honnêtement, dans cette Ligue 1. 3 minutes de temps additionnel sur cette première période, avec première période qui sera difficile à décrypter, dans le sens où il y a eu des vagues d'action intéressantes où il y a eu de l'intensité, et puis il y a eu des vrais moments qui ont duré presque 5-10 minutes où il ne se passait vraiment rien. C'était assez étonnant, c'est pour ça que je ne vous ai pas beaucoup coupé la parole. Mais
sur l'impression globale, Toulouse fait une bien meilleure première période que Lille, hein, Roland.
Oui, ils font même une meilleure que Lille, mais ils font aussi une très bonne
mi-temps. Avec un peu plus de réussite, ils auraient pu...
N'oublions pas que normalement, ils sont repartis du stade Vélodrome avec trois bosses sur la tête, mais là, pour le moment, ils ont dû mettre de la glace parce que ça n'a pas tellement posé des problèmes, là, ces trois bosses.
Ça confirme la passe difficile des Lillois qui ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs. Hein. Donc Lille est un peu dans le doute en ce moment, alors que ce n'est pas le moment, puisque c'est le sprint final pour les places européennes et qui aura un bon coup à jouer ce soir pour se rapprocher du podium. Ballon dans les pieds Toulouse à Rome.
Oui, les Toulousains qui récupèrent assez haut les ballons, c'est ça qui est intéressant pour eux, le bloc haut toulousain qui parfois permet de se projeter vers l'avant. C'est ça a été souvent les situations offensives, notamment de ce début de première mi-temps, ces ballons récupérés au milieu de terrain, justement dans les pieds d'André Gomes ou de Benjamin André dans les relances lilloises. Ça combine bien justement de côté de Toulouse à Vincent Siro. Il a tenté la talonnade pour faire la passe à Caceres, ça a été récupéré par les Lillois. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain, mais c'est Haraldsson qui va pouvoir sortir ce ballon avec André Gomes, et encore une fois ballon récupéré par le bon jaillissement de Djibril Sidibé, qui lui aussi c'est une recrue qui est assez intéressante du côté toulousain. C'est rare que du côté de Damien Comoli, avec la data, on recrute des joueurs de plus de 30 ans. C'est même une exception, mais Djibril Sidibé, ça a été plutôt une bonne pioche du côté toulousain. Désormais en défense centrale droit pour Djibril Sidibé, qui n'a plus les courses d'antan pour déborder sur le côté, mais qui dans l'expérience et la couverture derrière est vraiment très bon.
Très bien, ça.
Et puis c'est certainement l'importance dans le groupe aussi, hein. Cette équipe qui est cosmopolite à Toulouse, lui doit apporter de la sérénité, de l'expérience.
Et qui est très jeune.
Si,
il y a maintenant des Vincent Siro, Djibril Sidibé, Zazac, qui est King, qui est arrivé aussi au Mercato, qui a une trentaine d'années. Mais sinon, c'est beaucoup de jeunes et parfois issus du centre de formation. Il y a un coup franc intéressant.
Très dangereux pour Lille.
Les gars, avant le coup franc, on va faire un petit détour par le rugby. Northampton-Castres, le score et le temps qu'il reste à jouer dans ce quart de finale de Champions Cup, Pierre Thévenet.
5 minutes de jouer en deuxième période. Jérémy Fernandez avait ramené ses coéquipiers à 4 points, mais à l'instant, nouvel essai marqué par Burger Odendol. Ça fait 27-16 en faveur des Anglais de Northampton. 45e minute. Castres est toujours au contact. Castres arrive à faire mal à Northampton, mais pour l'instant, sans coller au score assez. 27-16, c'est le score en faveur de Northampton. 46e minute.
Et le bon coup franc lillois dans le temps additionnel entre Toulouse et Lille. La première période qui se termine sur RMC.
Ouais, c'est quasiment même les dernières secondes de cette première période. Coup franc à l'angle de la surface de réparation toulousaine.
Les Toulousains sont Baker. Trop près du but.
Ah, et ils sont sur la ligne des 6. Il y a le pied droit d'Haraldsson, d'accord. Et on va voir peut-être un effet parce que, justement,
parce que ça fait but. Voilà.
Parce que ça fait but. Parce que c'est Baker qui a tiré ce coup franc du pied gauche. Il a contourné le but et c'est, je sais pas s'il va pas être accordé à Caceres ce but parce que c'est Caceres qui touche ce ballon en dernier et qui le dévie au fond des buts de Guillaume Rest qui est resté sur sa ligne. Et en effet, coach, encore une fois, il avait raison. Si les Toulousains n'avaient pas été devant Guillaume Rest, peut-être qu'il n'aurait pas dévié ce ballon. Et la mi-temps est sifflée donc sur ce score de 2 buts à 1 pour les Lillois.
Et pourquoi c'est le meilleur, coach Courbis?
On a vu dernièrement 2 buts qui auraient pu être évités dans le Manchester United Lyon.
Et si c'est confirmé que c'est Caceres qui marque contre son camp, ça fait 2 CSC en 6 jours. Pas mal.
Ouais, mais écoute.
Pour l'instant, je vois Baker sur les différents sites. On va vérifier ça. C'est vrai que, il me semble que de toute façon, la frappe de Baker était cadrée. Voilà, Caceres, là. Ne change pas la trajectoire du ballon.
Dans tous les cas, c'est pas pour me faire plaisir.
Si.
Et puisque bon, j'essaie de voir.
T'avais tout.
Et j'essaie de voir si je sens encore un petit peu les choses. Ce but-là, mettez-les, s'il vous plaît, dans la catégorie des buts évitables.
Pam.
Voilà. Et le break est fait par Northampton à l'instant. Henry Pollock, le troisième ligne anglais de cette équipe, parfaitement servi par Alex Mitchell dans l'intervalle. Après un bras cassé sur une mêlée en faveur des Saints de Northampton. Henry Pollock qui va tranquillement entre les poteaux. 32-16, le score est désormais creusé, l'écart creusé par les Anglais de Northampton. 32-16 en faveur de Northampton. 48e minute de jeu avant la transformation.
On aurait préféré que ça soit dans l'autre sens, mais 32-16, ça nous parle forcément.
32-16, ça nous parle et ça va être transformé malheureusement et ça va faire 34-16. Et pendant quelques instants, tout Northampton appelait le standard RMC.
Eh ouais, alors s'ils peuvent louper la transformation, ça nous arrange. 32-16,
il est en face des poteaux à 5 mètres, ça passe à l'instant. 34-16, c'est passé pour Finn Smith. 49e minute de jeu et ça chante Owen the Saints dans ce Franklin's Garden.
Allez, merci Pierre. Là, les carottes sont cuites a priori pour les castrés. C'est la pause à Toulouse au Stadium. C'est Lille qui mène 2-1. Lille qui, avec cette victoire provisoire, pourrait remonter à la 4e place de Ligue 1 à seulement 2 points de Marseille, qui a été battu 3-0 à Monaco cet après-midi. Les Monégasques ont repris la 2e place de Ligue 1 et nous, tout de suite, on va parier sur la 2e période de ce TFC LOSC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Bredov, notre expert en paris sportif. Salut Johan.
Salut Benoît, salut coach.
Salut Johan.
Alors on a un beau match, mais c'est le cauchemar des parieurs. Parce que là, il y a des occasions dans tous les sens. Lille s'est fait dominer, mais Lille mène 2-1 à la pause. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour la seconde période?
Déjà, je vous donne les codes sèches pour cette seconde période. 1,37 la victoire lilloise, du coup. 3,70 le match nul. 9,50 la victoire de Toulouse. Coach, je t'écoutais quand même. Bonne première période. Très bonne première période des Toulousains, malgré.
Ah, je croyais de moi.
De toi aussi. Bien sûr, t'es toujours énorme. Coach,
je plaisante.
Il y a peut-être un pari qui va te plaire. C'est l'équipe qui marque le 4e but, donc le prochain but. Toulouse est coté à 2,30. Est-ce que tu le tenterais?
Ben pourquoi pas. D'ailleurs, je tente deux scores, le 2 partout et le 3-2 pour Lille.
Et ben le 2 partout côté à 4-10 et le 3-2 pour les Lillois côté à 6.
Merci Johan. Tous les conseils à retrouver sur RMC Sport.
Salut Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
19h52 sur RMC, l'intégral foot jusqu'à 21h avec coach Courbis. On va revenir dans un instant pour la seconde période de ce Toulouse-Lille. Les Lillois mènent 2-1. On continuera également de débriefer ce Monaco-Marseille, la victoire de l'AS Monaco. 3-0 face à l'OM. Je vous livrerai la première réaction de Roberto De Zerbi en conférence de presse. Je dis juste une phrase, Roland. Nous sommes positifs. C'est ce qu'a dit le entraîneur italien.
Ouais, mais il a oublié de mettre 0 avant.
Non, non, on peut pas accepter cette blague par contre.
Ah bon, merde, ça va, je la retire.
Voilà, tu la retires, merci. Non, non. Allez, 19h52, on revient dans un instant, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
L'Intégral Foot jusqu'à 21h sur RMC. Coach Courbis, c'est là comme tous les samedis soirs, 19h54. C'est la suite de la 29e journée de Ligue 1. C'est la mi-temps au Stadium de Toulouse. Le TFC est mené par Lille, 2-1. On rappelle le résultat de l'après-midi, la victoire de Monaco face à Marseille, 3-0. Monaco reprend la deuxième place avec 53 points, un point d'avance sur Marseille qui est troisième avec 52 points. Lille provisoirement quatrième avec 50 points. Strasbourg cinquième avec 49 points. C'est d'ailleurs le match du soir, ce Strasbourg-Nice qui sera passionnant à suivre. Coup d'envoi 21h05, avant match dans 10 minutes avec les compos sur RMC, Arnaud Valadon et Sébastien Ruffet qui sont sur place. Le point au rugby, les quarts de finale de Champions Cup, ce Northampton-Castres, Pierre Thévenet.
Ça n'a pas bougé, 34 à 16 toujours en faveur des Northampton Saints. 52e minute de jeu, il y a un Castré qui reste au sol, il me semble que c'est le capitaine Mathieu Babillot. Après un gros impact, les Castrés ont tenu à nouveau le ballon dans les 22 mètres de Northampton, mais ça défend bien côté anglais. Castré était déjà venu ici au mois de décembre dans des conditions cata, ils avaient perdu 38-8, donc il y a du mieux avec ce 34-16, mais ça risque d'être compliqué de remonter ce score dans la petite demi-heure qui reste à jouer dans ce match. 34-16 en faveur de Northampton.
19h55,
ah, j'espère me tromper, j'y crois pas une seconde.
Ouais, là, je t'avoue, Pierre.
Moi non plus, Roland.
Ah bah, super. Fait, bah, si toi non plus, tu crois pas.
Bon. Non, mais c'est compliqué. Castres n'a gagné qu'un seul match hors de ses bases cette année. Là, on est chez le champion d'Angleterre, demi-finaliste l'an dernier. C'est pas n'importe qui en face.
Et là, le 14 contre 15, c'est terminé ou il y a encore quelques minutes?
Non, c'est terminé. Léo Lacarawa est de retour, mais il est bien sur le terrain, mais c'est toujours compliqué côté Castres.
Merci, Pierre. On suivra quand même la fin de match. Hein. Désolé, les gars, mais on sait jamais. 19h55.
C'est quand même bien, Coupe d'Europe, quart de finale.
Oui, c'est pas la peine de me crier dessus, il est fou celui-là. Bon, très bien. On rappelle la bonne nouvelle, c'est l'UBB qualifié pour les demi-finales. Il y aura un club français en finale de Champions Cup parce que l'UBB affrontera le vainqueur de Toulon-Toulouse. Voilà. Donc, oui, mais en finale, parce que Kylian Vérov me dit qu'il y en aura deux. Mais non, il y en aura déjà un en finale, forcément. 19h56, c'est d'ailleurs demain à 16h ce Toulon-Toulouse. Avant d'accueillir Yacine, supporter marseillais au 32-16 pour débriefer la défaite de l'OM 3-0 à Monaco, je vous livre donc la première réaction de Roberto De Zerbi en conférence de presse. Roland, écoute bien. L'entraîneur italien a déclaré « C'est un match difficile à analyser parce qu'en première mi-temps, on a très bien joué. On a joué mieux qu'eux, on n'a pas pris de risque, on a eu l'occasion de marquer. Le premier but encaissé est bête, on n'est pas censé le prendre, ça nous arrive trop souvent. Je ne pense pas que le 3-0 soit juste. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à gérer, j'ai toujours dit ma vérité. Et on est toujours en vie et présent pour lutter pour la Ligue des Champions. On a de grandes possibilités de se qualifier. Cette semaine, l'équipe s'est très bien entraînée. Si vous me demandez l'analyse du résultat, on aurait mérité mieux. » Quand c'est le cas, je le dis, parfois de manière forte, ils ont bien joué. Je suis désolé pour les joueurs, ils avaient bien préparé le match. Désolé aussi pour les gens venus de Marseille. Malgré tout, je reste optimiste, plus qu'après certaines défaites et même après certaines victoires qu'on a eues cette saison. Voilà, le discours plein de positivisme pour Roberto De Zerbi. On va le débriefer, ce discours, avec Yacine, supporter de l'OM qui nous rejoint. Salut Yacine.
Salut les gars, bonsoir à tous.
Bon bah tu vois, le coach reste optimiste. Salut Yacine.
Ouais, ben oui, je suis d'accord. Moi aussi, si on parle d'optimisme avant d'arriver avec mes arguments, moi je pense que si on gagne les 4 matchs qui restent sur les 5, c'est-à-dire prochain match Montpellier, derrière Brest, bon après Lille, je considère que peut-être on va perdre.
C'est à Lille. Ouais.
Mais derrière Le Havre et fin de saison à domicile. Je pense qu'on finit minimum troisième. Quand on voit les autres équipes, les matchs entre les équipes qui sont au tableau. Pour moi, si on gagne les 4 sur 5, ça va le faire.
Après, Yacine,
si tu es d'accord avec moi. Bah,
espérer 4 victoires sur 5 quand t'as perdu 5 des 8 derniers matchs, c'est un peu optimiste.
Oui, si tu m'annonces 4 victoires sur 5, que je ne suis pas d'accord avec toi, là, sincèrement, je m'inquiète moi-même.
Non, mais quand on voit le niveau des équipes qu'on va rencontrer, enfin, Montpellier, si on ne gagne pas Montpellier, moi, j'arrête. Hein.
T'as perdu à Reims, hein, Yacine, hein.
Ouais, mais je suis d'accord, mais Montpellier, même les joueurs, ils disent c'est bon, on est en Ligue 2. Donc bon, voilà. Après effectivement Brest voilà, mais bon, Brest c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais sur les autres équipes voilà. Après on est loin quand même.
Tu as quand même Lille et Brest.
Non, mais Lille je le compte pas, coach. Hein.
Ouais, pour toi, c'est le match que Marseille peut perdre.
Ah, mais attends, mais voilà. Brest, voilà. Brest, c'est pas obligatoirement un cadeau, Brest. Hein.
Bah, mais si on est l'OM, si on est voilà, on peut gagner Brest. Ok, Monaco.
Ah oui, non, mais là, on est d'accord avec toi. Aujourd'hui, là, au moment où on a le plaisir de te parler, on vient d'entendre De Zerbi. Que De Zerbi, à la suite d'un match, mettre une robe d'avocat et donne après ce match quelques petites précisions pour que justement le parcours Monaco-Marseille ne va pas se faire avec seulement des bosses sur la tête, mais en plus des coups de marteau sur les bosses. Donc c'est sûr que il est en train de nous dire que là, malgré les trois buts qui sont un petit peu sévères, la première mi-temps, et on peut être d'accord avec lui, il y a une égalisation de Luis Enrique, que c'est plus difficile de la rater, cette égalisation, que de la mettre à côté. Donc derrière ça, il peut nous dire aussi qu'il n'a pas été inspiré dans certains choix. Il peut nous dire aussi qu'il n'a pas été inspiré dans l'équipe qui a démarré le match. Et on va pas lui jeter la pierre, on va lui dire ah ben c'est pas un problème, coach, ça arrive à tout le monde de pas être inspiré. Le seul truc, c'est qu'en ce qui concerne l'inspiration ou la non-inspiration, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, en arrivant à Marseille, ils vont pas aller dormir à la commanderie. Et que sur les 8 derniers matchs, il y a quand même 5 défaites et 3 victoires contre le Grand Nantes, le Grand Saint-Étienne et je me rappelle Toulouse. Plus le Grand Toulouse. Donc c'est ça qui m'inquiète moi. C'est pas uniquement la deuxième période qui était moins bonne aujourd'hui, la première qui était pas mal et tout. C'est les 8 derniers matchs qui m'inquiètent.
Mais ça tombe bien, coach, parce que moi j'ai appelé, enfin, avant que vous me lanciez sur autre chose, j'ai appelé pour De Zerbi, voilà. Pour moi, De Zerbi, on sait tous, enfin, il est à 500 000 par mois avec tout le staff, etc. Moi, je suis désolé. Première mi-temps, ok, bon, peut-être on a fait une bonne mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'est ce qu'on dit, coach. La deuxième, c'est pour les coachs, hein. C'est ce qu'on dit. Moi, je suis pas spécialiste comme
ouais, je l'ai entendu dire aussi. C'est vrai que voilà. sur la première, on cherchait le numéro 9. Après l'avoir cherché, on a dit mais merde, il y en a pas. Non,
mais aussi, juste Yacine.
Mais quand on ramène, moi j'ai une statistique. Je sais pas si vous en avez parlé ou pas.
Ouais.
Pour info, on est à une défaite de la statistique de l'année dernière. On est à une défaite.
Ouais, quand tu sais la saison qu'a fait l'OM l'année dernière.
Exactement. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit tout à l'heure,
sans Coupe d'Europe,
si on prend Lille, si on considère qu'on va perdre contre Lille, on est comme au même niveau de défaite que l'année dernière.
Attends.
Marcelinho, etc.
Là-dessus, je vais quand même te féliciter parce que sincèrement, faire les comparaisons avec la saison dernière de Noël qui a terminé 8e. Essaye peut-être, si je peux me permettre, de te dire cette année, nous avions la possibilité, et nous l'avons toujours, de terminer dans les trois premiers sans jouer la Champions League. On a en travers, enfin, ou alors peut-être je suis le seul, l'élimination contre Lille en Coupe de France. La Coupe de France pour nous, l'OM, cette année, c'était la Champions League. On est éliminé contre Lille avec Rouli remplaçant. Mais ça, c'est une originalité que j'ai toujours pas digéré parce que j'aimerais, je vais pas vivre encore 50 ans, j'aimerais quand même revoir de mon vivant l'OM gagner une Coupe de France qui a été pour moi un des plus grands souvenirs de quand j'étais jeune. Donc ça c'est cette année. Tu as un match tous les 8 jours et j'ai même entendu aussi de l'avocat De Zerbi qui fait son métier d'entraîneur avec des moments où tu es obligé d'être avocat. Quand j'entends qu'il y a certains joueurs qui étaient fatigués, mais fatigués de quoi? Si il y a le projet pour être en Champions League, mais si on est fatigué avec un match tous les 8 jours, il vaut mieux pas la faire en Champions League la saison prochaine.
On est d'accord, coach, on est d'accord. Et en plus de ça, aujourd'hui, enfin, si je reviens au match d'aujourd'hui, Luis Enrique, ce qu'il fait en première mi-temps, et on a vu derrière le raté qu'il a fait, mais c'est un raté, même moi, enfin, c'est ce que j'ai dit au passage, petite dédicace à OM Capital, c'est un groupe à Paris, là on voit les matchs ensemble dans des bars. J'ai dit même avec ma grosse, même avec mon gros ventre, moi j'ouvre le pied, je la mets au fond des filets. Hein.
Ah ça c'est l'occasion. Hein.
Moi je pense que même tu pouvais la mettre avec le ventre.
Hein. Non, pas sûr.
Voilà, on est d'accord.
Non, parce que t'aurais trébuché Yacine, il y a eu un problème. Bon Yacine, merci, bonne soirée à toi en tout cas.
Merci à tous.
Salut
Yacine, vas-y. Ouais.
Dernière chose.
Ouais.
Aussi, parce que le recrutement de l'hiver, parce qu'aujourd'hui, on a joué avec trois défenseurs centraux, trois défenseurs centraux qui ne sont pas spécialistes du poste. En jouant en deuxième, et vouloir jouer à la Ligue des Champions, moi, je trouve que c'est grave.
Non,
donc,
c'est
Mehdi, Benatia et Longoria, message de Yacine, l'année prochaine, j'espère qu'on va jouer à la Ligue des Champions. Un gros chantier. Voilà.
Et surtout donc la défense, t'as raison. Ouais, ok voilà. Yacine. Donc, merci Yacine, bonne soirée, maman.
Salut Yacine.
À bientôt sur RMC.
Merci de m'avoir reçu à l'antenne.
Avec plaisir, tu rappelles quand tu veux. Merci
salut,
Yacine.
Et bonne soirée Yacine.
Et bonne soirée à toi. 20h05 sur RMC, c'est reparti à Toulouse, entre Toulouse et Lille, Romain Malric.
Oui, ça vient de repartir à l'instant depuis 30 secondes. On rappelle que ce sont les Lillois qui mènent 2-1. La ouverture du score de Fernandez Pardo, la frappe dans la lucarne. L'égalisation de Cresswell de la tête. Et puis dans les arrêts de jeu de la première période, la frappe sur coup franc de Becker qui est déviée, qui passe entre les jambes de joueurs toulousains et trompe Guillaume Rest. Et d'ailleurs, en revoyant et en discutant avec quelques confrères à la mi-temps, il semblerait que le ballon allait quasiment sur Rest, mais que le mollet de Christian Caceres dévie ce ballon dans le petit filet.
On est d'accord, mais justement si ça se passe ça, c'est parce qu'il y avait embouteillage à l'intérieur d'un mètre, à l'intérieur des 6 mètres. Tu as regardé le match de Lyon et les buts qu'encaisse Lyon.
Tu parles de quel match, Roland? Face à Manchester?
Ben oui.
Oui. Et ça, c'est pas évident.
Oui. Mais oui, non, mais on en a parlé tout à l'heure, tu as raison de me reprendre. Ouais. Mais là aussi, ce sont des positionnements.
Des erreurs, ouais.
Et des erreurs qui, pour moi, font qu'il y a certaines catégories de buts que je mets parce que j'ai fait ça toute ma vie, de regarder un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ça m'empêche pas de temps en temps de me tromper, mais ça m'empêche pas aussi de temps en temps de pas me tromper. Et donc, le but de ce soir, tu le mets dans la catégorie des buts évitables. Pas qu'il a dévié du mollet, de machin, ou d'une autre partie de l'anatomie.
Voilà.
Donc, c'est un tir dévié parce que tu n'es pas dans un endroit où tu aurais dû être.
On revient dans un instant sur ce Toulouse-Lille. Juste un match en Ligue 2 avec une ambiance de dingue au Stade des Alpes entre Grenoble et le Paris FC. Salut Jérémy Donzé.
Salut Benoît, salut coach. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un anniversaire qu'on fête ce soir. Hein. Les 30 ans des Red Chaos, le groupe ultra grenoblois qui met une grosse ambiance. C'est le poumon ici du Stade des Alpes. Ça, ils fêtent leur 30 ans ce soir, les ultras, dans ce match. Belle affiche en tout cas face au Paris FC, le 3e de Ligue 2. Grenoble est 9e. Le Paris FC, coach qui doit s'imposer pour reprendre sa 2e place abandonnée. Oui.
Donc,
à Metz, hier soir.
On est bien d'accord, justement, avant un match, des fois, quand tu te retrouves à l'extérieur, tu dis, tiens, un match nul, ça serait pas non plus catastrophique. Catastrophique, non.
Ah oui, mais les autres avancent.
Mais un match nul de Paris Football Club ce soir, ça serait pour moi considéré comme une défaite.
Et le Paris FC qui est privé ce soir de son meilleur buteur, l'ancien Stéphanois Jean-Philippe Crasso, également de son meilleur passeur et de son maître à jouer, Ilan Kebal, face à des Grenoblois sans pression, même si et encore peut-être cet objectif du top 5. Ils ont 8 points de retard sur Guingamp, il faut à tout prix s'imposer ce soir au Stade des Alpes.
Et est-ce que ce sont des blessures graves?
Attention avec cette tête et la parade de Mamadou Diop, la première chaleur sur le but grenoblois, énorme parade du gardien grenoblois
sur cette tête. Grenoble.
Exactement, attention, c'est revenu à la poteau cette fois.
Quel
pour Timothée Kolodziejczak, l'enchaînement, les deux grosses occasions. Mamadou Diop d'abord qui s'impose, énorme parade du gardien grenoblois.
Ah ouais.
Ça revient sur un centre au deuxième poteau et cette fois c'est le capitaine Timothée Kolodziejczak qui propulse ce ballon sur le poteau grenoblois. C'est pas fini, un nouveau centre et on en reste finalement à 0-0. Les Parisiens qui démarrent très fort dans cette partie, 9 minutes, 0-0. Il y aura un nouveau corner corner pour les hommes de Stéphane Gilly.
RMC, c'est la radio du foot. Ce championnat de Ligue 2 est passionnant. Lorient en tête, 64 points. Metz, deuxième, 60 points. Paris FC, troisième avec 59 points s'il y a le point du match nul. Ça va être chaud jusqu'au bout avec Dunkerque et Guingamp qui sont à la lutte pour les places de barragistes. Avant de retourner à Toulouse, on rappelle que Lille mène 2 buts à 1 pour l'instant sur la pelouse du TFC. Retour au rugby, le quart de finale de Champions Cup. Et à mon avis, l'aventure Castres va bientôt se terminer, Pierre Thévenet, malheureusement.
Et l'heure de jeu, à l'instant, le score n'a pas bougé. 34-16, toujours en faveur de Northampton. On s'est accroché il y a 5 minutes environ sur le terrain et plus de cartons jaunes donnés par Andrea Piardi. 2 pour les Castres, pour Loïs Guérois, le pilier, et Rémi Baget, l'ailier. Un seul côté Northampton pour Mayana Vanua. 34-16, le score. Et donc les Saints à 14 contre 13 pendant encore 5 minutes environ, à 20 minutes de la fin du match.
On rappelle le temps, le score entre Toulouse et Lille, surtout les buteurs et la tendance de ce début de seconde période, Romain Malric.
49e, 54e minute de jeu désormais. 2 buts à 1 donc pour les Lillois. Fernandez, Pardo, Becker pour les Lillois. Cresswell de la tête pour les Toulousains. La tendance pour l'instant, c'est que les Lillois sont repartis un peu mieux que les Toulousains sur ce début de deuxième période. Je dis ça parce que ce sont les Toulousains qui avaient dominé dans les intentions la première période.
20h10 sur RMC. On revient dans un instant la seconde période de Toulouse-Lille. La première période entre Grenoble et le Paris FC. Attention, peut-être le casse lillois. Guillaume Rest.
J'ai une question à poser à Coach sur Guillaume Rest. On le posera tout à l'heure.
Le sens du teasing de Romain Malric.
Je sais déjà la réponse que je vais te donner.
Connais pas la question.
C'est là où il est fort. Et dans un instant, on filera à la Méno parce que c'est le choc du soir. Et il est d'autant plus important que Strasbourg peut réaliser un grand coup face à Nice. On rappelle que Marseille a perdu à Monaco 3-0. Les Strasbourgeois plus que jamais en course pour la Ligue des Champions. A tout de suite sur
RMC. L'essai de la gagne pour Northampton. Pardon Benoît, l'essai de la gagne pour Northampton. Le doublé d'Henri Pollock. Le festival d'Alex Mitchell, le demi-mêlé du 15 de la Rose. Deux fins de passe consécutives pour mettre Henri Pollock dans l'intervalle qui marque sans opposition le troisième. Désolé. 39-16, ça va faire 41-16 même en faveur de Northampton à 20 minutes de la fin.
Désolé, c'est terminé pour les Castres. Si on n'est pas surpris.
En revanche, le 7, le petit chambrage, là, j'espère qu'il y en a un qui va aller lui tirer les oreilles quand même. Parce que
ils essayent de lui tirer les oreilles depuis le début du match, c'est un phénomène. Hein. Henri Pollock, c'est vraiment le futur très grand de l'équipe d'Angleterre. Ils ont fait une mission sur lui depuis le début du match, mais résultat, il a mis en doublé.
Bon, et ben, j'espère que tu t'en chargeras toi alors. Okay.
Ouais, pas sûr.
Allez, merci Pierre.
41-16 pendant.
La fin de match dans un instant, la suite de Toulouse-Lille et direction la Méno pour le choc du soir entre Strasbourg et Nice. À tout de suite sur RMC.
Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h14 sur RMC. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'Intégral Foot jusqu'à 21h. Coach Courbis est là à votre service pour la suite de la 29e journée de Ligue 1. Monaco a battu Marseille 3-0 cet après-midi. Le match en cours oppose Toulouse à Lille. Romain Malric.
Ouais, c'était chaud dans la surface de réparation. Yann Beau, il s'est fait projeter à terre par un défenseur lillois. Monsieur Brizard fait signe de continuer de jouer. Il n'y a rien selon l'arbitre de ce match. C'était une des premières incursions toulousaines de ce début de deuxième période dans la surface de réparation lillois. On joue la 55e minute de jeu. Les Lillois mènent toujours 2-1. Ce sont eux qui ont la balle depuis le début de cette deuxième période. On sent qu'il y a un peu plus de maîtrise de la part des Lillois et des Toulousains. Va falloir accélérer un peu plus pour essayer de provoquer quelque chose.
Romain, on revient dans un instant, mais un but a été marqué en Ligue 2 entre Grenoble et le Paris FC. Jérémy Donzé.
Ouais, l'ouverture du score des Parisiens. Ouverture du score signé Samir Cherghi à la 12e. Après une frappe de Thibaut Lesmet, un ballon repoussé par Mamadou Diop dans les pieds de Samir Cherghi, le défenseur parisien qui a bien suivi, qui ouvre le score. Donc après un quart d'heure de jeu, le Paris FC qui reprend donc provisoirement sa deuxième place aux dépens de Metz dans ce championnat de Ligue 2. Les Grenoblois cueillis à froid, ils s'en étaient bien sortis sur l'occasion précédente. Double occasion avec la parade de Mamadou Diop sur une tête d'Adama Camara. Derrière, il y avait eu la tête de Timothée Kolodziejczak sur le poteau grenoblois. Grenoble qui est mené sur sa pelouse du Stade des Alpes. 1-0 pour le Paris FC. Le dauphin pour l'instant de Lorient après un quart d'heure de jeu.
Dans un instant, direction la Méno pour vous présenter ce magnifique Strasbourg-Nice qui arrive ce soir à 21h05. Un match à fort enjeu pour les places européennes, pour la Ligue des Champions notamment. Strasbourg pourrait profiter de la défaite de Marseille à Monaco 3-0 cet après-midi. Juste, on retourne au stadium parce que ça commence à se tendre. Il y a un peu d'électricité sur la pelouse, Romain, et surtout, tu voulais faire réagir réagir, Roland, sur le niveau de Guillaume Rest cette saison, je crois, c'est ça?
Oui, alors d'abord, l'électricité, c'est parce que M. Brizard laisse beaucoup jouer, donc ça fait deux fois que Beau est mis à terre par un joueur lillois. Évidemment, le stadium ne comprend pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas. Non, la constatation d'abord, avant, pour nuancer déjà les propos que je vais donner sur Guillaume Rest, c'est que on constate quand même que Toulouse, en ce moment, a tendance à provoquer la réussite des autres équipes. Ça a été le cas il y a 15 jours ici face à Brest qui marque 4 buts au stadium en 4 occasions, malgré une domination toulousaine. Honnêtement, au Vélodrome la semaine dernière, Marseille marque 4 buts, mais il n'y a pas eu pléthore d'occasions pour les 3, Marseillais non plus. 3 buts, pardon, mais il n'y a pas énormément d'occasions pour les Marseillais. Et là, Lille s'est venu deux fois près des buts de Guillaume Rest et a déjà marqué 2 buts. Alors, et ça va avec le fait qu'on s'aperçoit quand même que Guillaume Rest n'est plus décisif dans les buts toulousains, et c'est peut-être dû aussi au fait qu'il n'a jamais coupé depuis les Jeux Olympiques. Et c'est un jeune joueur, on l'oublie peut-être un peu, mais c'est un jeune joueur, et là en ce moment c'est pas qu'il il n'est plus efficace pour le Toulousain, ça commence
coupé,
à devenir.
Il n'a jamais coupé, il n'a pas coupé à cause des blessures.
Attention, le ballon dans la surface de réparation, Sidi Bé le centre, c'est repoussé, la tentative de retournette carrément de Caceres, c'est repoussé par les Lillois, mais ça va revenir dans les pieds de Soiseau. Allez, un temps fort intéressant pour les Toulousains, il faut peut-être remettre vite ce ballon devant les buts de Chevalier. On va repartir derrière avec Caceres, avec Sidi Bé. C'était intéressant ce centre de Sidi Bé qui avait bien été propulsé en dédoublement dans la surface de réparation de Lucas Chevalier, mais il y avait trop de joueurs lillois devant les buts pour que ça soit conclu.
Il a loupé 5 des 8 derniers matchs. Guillaume Rest,
j'allais te dire, je dis une bêtise ou
oui, il a été, alors il a été blessé
à la cuisse.
Il a été blessé, mais pendant son absence, Chetil Hogg a été bien plus efficace finalement sur sa ligne que ne l'est Guillaume Rest, qui, alors honnêtement, parfois c'est dur à dire, mais il ne peut rien. La frappe, par exemple, de Fernandez Pardo, elle est dans la lucarne. On peut rien dire à Guillaume Rest, mais il y a tellement de
il provoquait la chance. Sur les derniers matchs, on ne va pas remonter à il y a 20 matchs. Sur les derniers matchs, et notamment les matchs contre Brest et au stade Vélodrome, pas qu'on ne peut rien dire. On peut dire beaucoup de choses, et notamment d'être revenu de sa blessure. Là, j'espère qu'il n'a pas rechuté.
Blessure à la cuisse,
parce qu'une blessure, c'est emmerdant, mais une rechute, c'est encore plus emmerdant. Et là, sincèrement, je me demande en pourcentage. Où il en est de quand il est à 100%.
S'il est en ce moment
à 50% déjà de ce qu'il peut et de ce qu'il doit faire, parce qu'après, on ne connaît pas aussi le niveau. Un futur bon gardien, ça veut tout et rien dire. Je te pose une question. Après, c'est chacun ses goûts pour les gardiens. Est-ce que pour toi, il part pour être meilleur que Lafond?
Ouais, parce que c'est le même profil et le même parcours.
On les compare souvent d'ailleurs. Ouais, mais Lafond a toujours dit que, parce que se pose la question aussi de son avenir au TFC à Guillaume Rest, parce qu'il fait partie des plus bankable aujourd'hui de la feuille de match toulousaine. Ouais. Lafond était parti très tôt à la Fiorentina du TFC avant de revenir à Nantes plus tard. Et Lafond aujourd'hui est déjà dans les petits papiers pour être pourquoi pas vendu.
Le sujet intéressant et le point important que tu as soulevé pour moi, Romain, c'est l'enchaînement des matchs pour un gardien de but. Roland, on parle souvent des joueurs, la fatigue physique et tout. On considère que le gardien de but a un poste totalement différent des joueurs de champ. Il est d'ailleurs un entraîneur pour lui, entraîneur des gardiens, mais la fatigue mentale, elle est là quand même. Il a connu ce parcours olympique avec l'équipe de France, cette finale, il a enchaîné avec Toulouse. Est-ce que là, les blessures et la méforme qu'il a depuis quelques mois au TFC, c'est pas lié, comme l'a dit Romain, à ce manque de coupure et de pas pouvoir souffler, parce qu'il faut digérer tout ça, le début de carrière professionnelle, 20 ans, le parcours olympique, la pression avec Toulouse, tu vois, tout ça, c'est peut-être un enchaînement difficile.
Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, puisque j'ai eu le plaisir de discuter avec des gardiens, et pas les plus mauvais de notre championnat, les Olmeta, Huard, Joseph-Antoine Bell, et Nourri. Donc, si tu veux, il y en a un paquet. Et c'est vrai que on pense toujours que c'est les joueurs de champ qui se fatiguent parce qu'ils sont obligés de courir et de faire des kilomètres. Mais nerveusement, un gardien de but, ouais. Si par exemple on te dit qu'un gardien de but, il perd du poids pendant un match comme peut perdre un joueur de champ. Tu te dis, mais pourquoi il perd du poids? Il court même pas. Ben, ça fait rien. Le peu qu'il court et le fait d'être justement concentré nerveusement, psychologiquement, si tu viens de faire une boulette, je vais te dire un truc, pour la digérer, c'est pas en deux minutes que tu l'as digéré. Ouais. Il te tarde de toucher le ballon d'après. Donc le gardien de but, tu sais ce que j'en pense, hein, c'est pour moi un poste particulier et particulièrement important, mais c'est un poste totalement différent de ses coéquipiers. C'est pour ça d'ailleurs que je suis contre. C'est pas que je suis contre. Je suis contre effectivement le fait qu'un gardien de but, pour moi, soit de temps en temps capitaine. Voilà. Je trouve que c'est le dernier poste à mettre capitaine, c'est gardien de but.
Tiens, un changement.
Parce qu'il n'a rien à voir avec ses coéquipiers.
La sortie de Jonathan David, encore un match délicat pour l'attaquant canadien du LOSC. Hein.
Ouais, il marquera pas ce soir son 15e but en championnat, Jonathan David, qui n'a pas marqué depuis 4 matchs désormais. Il y a eu plusieurs changements du côté de Lille, l'entrée de Sahraoui également à la place de Becker, et donc l'entrée de Akpom à la place de Jonathan David. Il y a eu un changement également côté toulousain, avec un deuxième avant-centre rentré, puisque Joshua King va jouer aux côtés de Franck Magri. Je crois que c'est une première. Et c'est Messali qui a laissé sa place. Messali qui était en couloir, et donc Donome va reculer d'un cran. Premier ballon dans la surface pour King. Bon. Son centre est contré, ça arrive dans les gants de Lucas Chevalier. Toujours 2-1 pour Lille, on joue la 63e.
20h22 sur RMC l'intégral foot. Roland, je te prends par la main et je t'emmène tout de suite à la méno. Retrouver Arnaud Valadon et Sébastien Ruffet. Salut à vous deux.
C'est vrai qu'il y a celui-là de match aussi.
Salut à tous.
Salut. Oui, le duel des multipropriétés entre Strasbourg et Nice. Ineos face à Blouko, c'est quelque chose.
Ça, c'est le genre de match qu'il y a deux mois de ça, on imaginait les Niçois capables. Et là, ces Niçois, si je ne me trompe pas, ils sont sur trois défaites.
Et voilà.
Un match nul.
Un point sur 12, oui.
Et Strasbourg en ce moment, c'est vraiment pas un cadeau. Mais c'est peut-être aussi l'occasion pour Nice. Ben de refaire un exploit.
L'énorme coup à jouer pour les Strasbourgeois, mettre fin à une dynamique très négative pour les Niçois. Les gars, vous allez composer l'équipe sous les yeux d'ailleurs.
Absolument, et on va commencer avec les Strasbourgeois qui entrent à l'instant sur la pelouse pour l'échauffement, avec ce public qui remplit doucement la méno pour le 57e guichet fermé consécutif ici à Strasbourg. Georgi Petrovic, l'impeccable gardien serbe du Racing, évidemment dans les buts. Valentin Barco prendra le couloir gauche en lieu et place de Diego Moreira, suspendu. La défense avec le retour d'Andro Omo Babidele en défense centrale à côté d'Ismaël Doucouré, Guéladoué à droite évidemment, à la récupération Andrei Santos associé à Habib Diarra sur le flanc droit, bien sûr Dylan Bakwa autour de 9 passes décisives cette saison, Emmanuel Emeya soutenu par Félix de Maréchal, et à gauche petite surprise quand même avec la titularisation du jeune ailier anglais Samuel Amo Ameyo.
Et du côté de l'OGC Nice, bonne nouvelle pour Francaise qui récupère Dante, qui récupère Barre en défense, Boulka dans les buts, la défense à 3 avec Dante, capitaine Ndaye Chimier, Bombito, Klaus piston droit, Melvin Barre piston gauche, Boudaoui et Santa Maria préféré à Rosario au milieu de terrain, et les trois attaquants Boga, Laborde et Guessant, sachant que Mohamed Alichaud a été laissé hors groupe et Capdelmonem, le défenseur, était trop juste.
Sébastien, la période actuelle pour Strasbourg est complètement dingue. Le Racing commence à avoir des rêves de Ligue des Champions.
Mais
est-ce qu'on a réglé juste le conflit entre supporters et équipe? Est-ce que c'est terminé la grève des encouragements sur les 15 premières minutes? Est-ce que ça y est, on prend conscience de l'enjeu qu'il y a sur la fin de saison?
Non, parce que les ultras l'ont dit clairement, quelle que soit la situation et quelle que soit la position de l'équipe, eux, ça ne change rien à leur combat contre cette multipropriété. Donc jusqu'au bout de la saison, il y aura les 15 minutes de grève du COP strasbourgeois, ce qui n'empêche pas le reste du public de prendre en main ces 15 minutes et que ensuite tout le monde puisse chanter ensemble. Parce que ce qui était problématique aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une scission au sein des supporters. Et ce qui s'est passé à Reims la semaine dernière était plutôt sympa, ça a été relayé lors du déplacement avec ce parcage qui était très fourni. Il y avait les UB qui n'ont pas chanté pendant 15 minutes, les autres ont chanté et ensuite tout le monde s'est mis ensemble. Et c'est ça qu'on espère retrouver, c'est-à-dire qu'OK, ils font leur grève, ils l'ont dit, jusqu'au bout de la saison, ce sera comme ça et ça changera pas.
Il y a eu quelques sifflets parfois ici.
Et voilà, c'est ça, il y a eu des sifflets à l'encontre des UB qui assurent quand même l'ambiance. Ce qu'il faut, c'est que on comprend leur position et les autres supporters prennent le relais pendant ces 15 minutes-là et après tout le monde ensemble.
On comprend leur position, ok, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement qu'ils aimeraient?
Bah, il regrette le choix du club et plutôt la vente à une multipropriété.
Et le modèle économique.
Le modèle économique. Et puis l'absence de liens et de contacts avec les, on va dire, entre guillemets, les vrais dirigeants, ceux qui prennent les décisions en termes de recrutement, en termes stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, à Strasbourg, on prend quelques décisions, mais tout est quand même piloté depuis Londres. Et ces personnes-là ne sont jamais venues rencontrer les groupes de supporters. Donc ça aussi, ça faisait partie des requêtes et qui n'ont jamais été remplies.
Après, en termes sportifs, les supporters se régalent parce que l'équipe est jeune, elle est enthousiaste. Il y a un entraîneur que Roland adore. D'ailleurs, je crois que c'est ton coach préféré en Ligue 1 cette saison.
Mais un de mes trois coachs préférés, oui.
Ouais. Et cette fin de saison sans pression, est-ce que c'est comme ça qu'on le vit, Sébastien? Est-ce qu'on se dit là, c'est que du bonus? On va chercher la meilleure place possible. Et contrairement à nos concurrents directs, que sont Marseille, que sont Monaco, que sont Lille, que sont Lyon et que sont Nice, est-ce qu'on se dit, bah nous, on n'a aucune pression et on va aller jusqu'au bout avec deux matchs très importants, celui de ce soir et celui de la semaine prochaine d'ailleurs. Bah,
clairement, il y a différents niveaux de lecture de non-pression, j'ai envie de dire. La première, c'est effectivement cette équipe jeune qui s'est construite, qui part de loin, parce qu'à un moment donné, ils étaient quand même plutôt deuxième partie de saison. Là, ils sont sur une série folle de 7 victoires et 1 nul. Rendez-vous compte, 7 victoires et 1 nul sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, dont 6 clean sheets. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont d'une solidité à toute épreuve. En plus, ils arrivent à être efficaces, ils arrivent à tenir des résultats. Enfin bon, c'est assez extraordinaire. Mais.
Oh, la parade de Lucas Chevalier! Elle est magnifique, là. La main gauche de Lucas Chevalier pour sortir cette frappe de Christian Cresswell qui avait bien réussi à pénétrer dans la défense lilloise et à l'entrée de la surface. De réparation, la frappe du gauche de Christian Cáceres, l'international vénézuélien qui avait marqué d'ailleurs un très beau but ici au stadium face à Strasbourg. Mais là, cette fois, la manchette de Lucas Chevalier, elle est magnifique pour mettre ce ballon en corner. Les Toulousains n'ont pas dit leur dernier mot, même si après 68 minutes de jeu, ils sont toujours menés 2-1. Est-ce qu'on reste pour le corner?
On va rester pour le corner.
Allez, le corner tiré patte gauche par Donome, ça sera sûrement rentrant au point de pénalty. La tête de Cresswell, encore une fois l'arrêt incroyable de Lucas Chevalier. Et la comparaison quand même est assez intéressante. On vient de parler il y a quelques minutes de Guillaume Rest, et en face on a Lucas Chevalier qui était son concurrent aussi chez les Espoirs. Désormais il est chez Léa au niveau de l'équipe de France, je parle. Et Lucas Chevalier, lui par contre, il est décisif pour les Lillois. Deux beaux arrêts, même si là il y avait une faute sifflée par Monsieur Brice.
Je pense qu'il y aurait eu hors-jeu s'il y avait eu but. Ouais.
Ah, c'est hors-jeu, peut-être le hors-jeu qui est sifflé par le c'est hors-jeu.
L'attaquant qui a pu gêner pas trop parce qu'il a arrêté quand même, mais qui a pu gêner le gardien. Donc il était en position de hors-jeu et en plus il a quand même posé des problèmes à Chevalier qui a fait son arrêt quand même. J'insiste sur le quand
il
même.
Est pas mal ce Chevalier
il est intéressant.
On va passer qu'il peut être dans les trois en équipe de France.
Je le mets de côté, on sait jamais. Ça fait 2-1 toujours pour Lille à Toulouse. Juste rappel du score et du temps de jeu entre Grenoble et le PFC. Jérémy Donzé,
la 29e au Stade des Alpes, toujours Paris FC qui a l'avantage, 1-0, le but de Samir Chergui à la 12e.
Dans un instant on continue de vous présenter ce Strasbourg-Nice. On dira un nouveau mot des
attention Lucas Chevalier, encore une fois. Cette fois c'est Yann Bo qui s'est mis sur son pied droit. Entrée de surface de réparation, il est côté gauche, il revient sur son pied droit, il enroule la frappe, elle a les petits filets, mais Lucas Chevalier se détend bien pour repousser encore une fois ce ballon pour un nouveau corner pour les Toulousains. Randonome, encore une fois,
on va tester le pif de Roland. Est-ce que tu sens bien ce corner?
C'est pas le corner. En ce qui concerne cet arrêt,
oui,
c'est pas un arrêt fait n'importe comment et se contentant justement d'avoir arrêté ce tir qui n'a pas fait but. C'est la façon d'écarter le danger,
le ballon du danger.
Et de ne pas remettre le ballon dans l'axe ou dans un endroit où il aurait pu y avoir un Toulousain qui marque. Et bien là, il y a un corner, je ne te dis pas que ce n'est pas dangereux.
Le corner,
mais
bon, avec la manchette de Lucas Chevalier, mais là, il y a une faute sur le portier lillois qui a été bousculé au moment de son saut. C'est Vincent Siro, me semble-t-il, le capitaine, qui fait cette faute. Et donc, 70e, toujours 2-1 pour les Lillois qui vont pouvoir se dégager.
Est-ce que Sébastien Huffet pourra terminer sa réponse? Oui, dans un instant sur Strasbourg, on arrive et puis on conclut juste au rugby avec l'élimination Castres qui aura tout de même fait un beau parcours dans cette Champions Cup. Élimination à Northampton, Pierre Tedney.
Un beau parcours qui s'arrête brutalement. 51-16, la victoire de Northampton face à Cass. C'est terminé pour les Castrés. Northampton ira en demi-finale au Leinster qui vient de gagner 62-0 puis 52-0 ces deux tours précédents. Donc la mission impossible sera cette fois-ci pour les Saints de Northampton. 51-16, c'est terminé pour l'aventure européenne.
0 encaissé, rien encaissé.
0 et 0 les deux fois en phase finale. C'est la première fois de l'histoire que l'équipe n'encaisse pas de points.
Moi des fois, je le dis en rigolant, en match de rugby, je vais jouer les deux équipes qui marquent. J'aurais perdu.
Là, t'aurais perdu deux fois.
Cote d'un 0-1, t'aurais planté, Roland, t'imagines ?
Incroyable. T'imagines.
Allez, on a mis pause sur Sébastien Ruffet, on va mettre lecture dans un instant.
C'est pas, attention, parce que c'est chaud au stadium, il y a un temps fort des Toulousains, la frappe de Sidibé. Ah, elle passe au-dessus, il enroule pas avec le bon pied, ça passe au-dessus de la lucarne de Lucas Chevalier. C'est intéressant, les Toulousains qui se rebiffent à 20 minutes du coup de sifflet final, mais qui sont menés toujours 2-1 par les Lillois.
Romain, ton enjeu, c'est de faire en sorte que Sébastien Ruffet ne parle pas jusqu'à 21h05. Allez, d'accord. 2-1 toujours pour Lille à Toulouse et on continuera l'avant-match de Strasbourg-Nice. Je rappelle que le PFC mène 1-0 à Grenoble. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot. Benoît Boutron.
20h34 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 21h avec coach Courbis, la suite de la 29e journée de Ligue 1. Rappelons la victoire de Monaco, le carton de Monaco face à Marseille, 3-0 cet après-midi. Le match en cours oppose Toulouse à Lille. Romain Malric.
Ouais, on joue la 74e et les Toulousains qui courent après le score mené 2-1, donc score acquis à la pause pour les Lillois. Les buts de Fernandez Pardo, de Becker en première période, le but de Cresswell pour les Toulousains. Les Toulousains qui ont beaucoup de situations offensives sans avoir de très grosses occasions, même si là sur les dernières minutes on a vu par deux fois, par trois fois même, les parades de Lucas Chevalier, le portier lillois, qui pour l'instant maintient les trois points pour ces Lillois, des trois points qui seront sûrement précieux sur cette fin de saison. On rappelle que les Lillois ont vraiment l'enjeu de recoller, de remonter au classement et d'aller chercher une place européenne et en fonction de la place évidemment la plus belle des compétitions, la Champions League, en étant dans les trois ou quatre premiers de Ligue 1. Pour les Toulousains, c'est plus une fin de saison en roue libre, si ce n'est d'aller chercher de faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, ils étaient déjà 11e, donc là ils sont 11e. Donc est-ce que Toulouse est une équipe qui finit dans les 11 ou 12e ou plutôt dans les 8-9e? Voilà, c'est un peu l'enjeu. Attention, ballon dans la surface de réparation pour Yann Beau qui il y a du monde face à lui, le centre, deuxième poteau, la tête de Joshua King dans les bras de Lucas Chevalier, mais c'était bien joué de la part des Toulousains. Il y a de plus en plus de situations intéressantes pour les Toulousains. On se rapproche plus du deux buts partout et quand je dis ça, je me dis qu'il va y avoir un contre lillois sûrement, parce qu'on l'a dit, il y a vachement de réussite de la part de toutes les équipes qui viennent ici au stadium ces derniers temps. Okay. Il en faut pas beaucoup pour marquer des buts et c'est ce qui est arrivé pour les Lillois pour l'instant. On joue la 76e.
Allez, Grenoble Paris FC en Ligue 2, Jérémy Donzé.
On est rentré dans les 10 dernières minutes de la première période, toujours cet avantage pour le PFC, 1-0, le but signé Samir Cherghi, ouais, à la 12e. Des Parisiens qui sont pas flamboyants mais qui sont en maîtrise ce soir, eux qui provisoirement reprennent leur place de dauphin de Lorient, bon. Deuxième devant Metz, un petit point devant les Messins qui sont imposés face à Martigues.
Tu l'as d'ailleurs déjà dit, mais bon, on le répète, il en manque deux joueurs très 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 importants. Ouais,
Crasso et Kebal. D'ailleurs, pour répondre à ta question tout à l'heure, coach, on a été interrompu par les occasions parisiennes, mais les blessures de Crasso et Kebal sont a priori moins graves que prévu, ou en tout cas que redouté au tout début. Crasso, une luxation de l'épaule, pas d'opération en vue, et Kebal, c'est les quadriceps. Bon. Mais on pourrait les voir dès la semaine prochaine face à Bastia, sinon lors du déplacement à Rodez dans 15 jours. Paris FC qui mène 1-0 à 8 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période à Grenoble.
Et retour à la Méno dans moins de 30 minutes, le coup d'envoi de Strasbourg-Nice. Ils sont parlé de la situation sportive du Racing avec Sébastien Ruffet, Arnaud Valadon à ses côtés. On parlera de Nice dans quelques secondes, mais Sébastien, on parlait de l'absence de pression pour ces Strasbourgeois, quoi. C'est ça la chance qu'ils ont par rapport à leurs concurrents directs, c'est qu'eux, eh ben, ils ont une équipe jeune, enthousiaste et qui forcément a beaucoup moins de pression sur les épaules.
Déjà à la base, quand effectivement les jeunes se mettent moins de pression, mais en plus quand tu viens du fin fond du classement et que tu grattes tes places comme ça, bah t'as moins de pression que quand t'étais comme Nice deuxième et puis qu'à un moment t'es sixième. Il y a une autre dimension aussi, c'est la dimension économique. On entend tout le temps parler de Lyon qui dit il faut absolument avec des champions, sinon on va pas s'en sortir. Marseille qui se met la pression, il nous faut avec des champions. Monaco, il nous faut avec des champions parce que sinon financièrement c'est compliqué. À Strasbourg, alors on parlait de multipropriété tout à l'heure. il n'y a pas réellement ce couteau sous la gorge là pour une qualification européenne. Ce sera que du bonus. Donc les joueurs ne sont pas soumis.
Oui, le plus important, c'est que ça se passe à Chelsea, la Champions League.
Non mais donc, quelque
Chelsea,
part, c'est.
Chelsea,
non, mais,
bon, y a
eux, ils ont la pression. Oui, Chelsea a la pression, mais Strasbourg n'a pas la pression.
Ils peuvent se rencontrer.
Ben alors vous souriez, mais ça sera un vrai cas d'école à surveiller si jamais Chelsea et Strasbourg.
Alors on a déjà vécu ça à Toulouse.
Ouais. ça te dit quelque chose, Romain, forcément.
Il y a eu cette problématique à Toulouse où l'an dernier, puisque Toulouse avait gagné la Coupe de France en Ligue Europa, on s'est retrouvé avec le Milan AC.
Il faut changer de statut, c'est ça.
Et
si
le TFC,
ça arrive,
voilà. Et il faut changer les statuts pour ne pas avoir officiellement, je dis bien officiellement, les mêmes propriétaires.
Ouais. On en parle déjà d'ailleurs, Seb, au Racing.
Bah oui, mais alors moi il me semble avoir vu que ça, pour être en conformité, il fallait que ce soit fait avant le mois de mars. Alors est-ce que tout cela a été anticipé vu les dernières semaines et le début d'année 2025? Pour l'instant on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est une question qui va commencer à se poser très sérieusement.
Je vous donne juste la situation actuelle au classement, parce que Lille mène 2-1 à Toulouse. Pour l'instant on a le PSG qui est largement devant avec 74 points, on a Monaco deuxième avec 53 points, Marseille troisième avec 52 points, Lille en cas de victoire aurait 50 points. Strasbourg est cinquième, mais si Strasbourg bat Nice, Strasbourg aurait le même nombre de points que l'OM, donc quatrième, mais seulement distancé au goal average.
Une vérification VAR au stadium. Hein.
Et si jamais Lyon gagne à Auxerre demain, Lyon aurait 51 points. On aurait une fin de saison complètement dingue pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. On surveille cette situation avec peut-être
J'ai besoin de ton aide, Benoît, parce que j'ai pas bien vu pourquoi Joshua
net, hein.
King.
Parce qu'il y a une faute d'Alexandro sur la jambe d'un Toulousain.
Non, je m'imagine pas penalty sur ce truc-là, quand même.
Non, mais il n'y a rien. Il y a juste une vérification. Mais
ça aurait été trop dur de siffler penalty là-dessus.
Moi, j'avais rien vu d'exceptionnel, mais sinon que Joshua King s'était relevé en boitant, mais j'avais pas trop vu pourquoi il boitait.
Alors,
fausse alerte.
Pardon. On en reste à 2-1, pas de problème, et il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Parlons de Nice, Arnaud Valadon, parce que les Niçois avaient eu l'occasion en or il y a quelques semaines. Ils pouvaient prendre la deuxième place de Ligue 1 devant Marseille, et depuis que ces opportunités ont existé, rien ne va plus à Nice, c'est fou.
T'avais quand même 3 matchs à domicile à l'Allianz Arena. Tu as perdu contre Nantes la semaine dernière 2-1. Tu as fait match nul contre Auxerre, un but partout. Une défaite contre Lyon 2-0. Bon, perdre contre Lyon, c'est pas forcément fâcheux. Tout comme cette défaite à l'extérieur, c'était contre Monaco 2-1. Mais ça fait que 1 point sur 12 pour les Aiglons. Et surtout cette défaite face à Nantes, hein, qui lutte pour se maintenir. Elle a fait mal aux têtes. Francaise a évidemment haussé le ton cette semaine à l'entraînement. Il a reconnu qu'il voyait aussi pas forcément de très bonnes attitudes chez certains de ses joueurs. En tout cas, pas forcément concentrés. Ou voilà, avec cet état d'esprit d'avoir l'agnac. Mais le retour de Dante en tant que capitaine devrait faire quand même du bien, coach.
Barre aussi côté gauche, mais la composition d'équipe qui démarre le match, parce qu'il y a quand même aussi un banc qui est assez sympa, la composition d'équipe de Nice ce soir, je la trouve très cohérente et très très bonne. Si Strasbourg arrive encore à gagner le Nice de ce soir,
il y aura un Monaco-Strasbourg la semaine prochaine.
Voilà. Ben, celui-là, il sera pas mauvais non plus.
Roland, ce Strasbourg-Nice ce soir, il est passionnant. Hein. Il y a des enjeux sportifs. Il y a deux équipes qui sont en ballante depuis le début de saison. Tu t'attends à quel scénario d'ailleurs?
Je vois quand même un match très difficile pour Nice. Parce que rencontrer Strasbourg en ce moment, c'est pas un cadeau. Et est-ce que Strasbourg va quand même se débrouiller encore de gagner ce match? Je verrais plutôt un match nul.
Et bien justement, on va parier tout de suite sur ce Strasbourg-Nice.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Toujours avec Johan Bredon, notre expert en paris sportif. Ça doit être assez équilibré au niveau des cotes d'ailleurs, Johan.
Très équilibré au niveau des cotes. Tout léger avantage à Nice, à l'extérieur. 2,55 la victoire niçoise. 3,45 le match nul. 2,75 la victoire de Strasbourg. Et tu le disais, au vu des dynamiques, je trouve que la cote de Strasbourg à la méno à 2,75 est à tenter pour cette rencontre. Ton match nul, coach, à 3,45. Mais là, je t'en regarde.
Alors, vous voyez pas la tête de Rolocombe. Il a la tête de l'emoji étonné. Vous savez que la bouche ronde. Oh.
Attends, j'essaie de me mettre à la place d'un bookmaker. Je sais pas si j'y arrive, mais
pourquoi t'as pas pris en photo?
Mais comment tu peux mettre Nice favori à Strasbourg en ce moment?
Ah, c'est dingue.
Je comprends pas pourquoi.
Ils sont sur 3 défaites.
Est-ce
nul,
que ça change ton pari?
Non, au contraire, je vais même jouer peut-être un petit peu plus sur Strasbourg. Strasbourg qui ne perd pas et même Strasbourg qui gagne. Tu vois, donc je peux toucher les deux tickets s'ils gagnent.
Strasbourg ne perd pas les deux marques, j'imagine, coach.
Par exemple.
Ça, c'est à 2,20. La victoire de Strasbourg, donc très bien cotée, à mon sens, c'est 2,75. Je vous donne les buteurs. Emmanuel Emega, coté à 2,90.
Là, par contre, je ne rajoute pas les deux équipes qui marquent. Uniquement la victoire de Strasbourg, ça me convient largement.
Et Gaëtan Laborde pour les Niçois est coté à 2,80.
Bon, merci, Johan. Tous les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un grand merci à Arnaud Valadon, Sébastien Ruffet. Merci les gars. On vous retrouve à 21h05 pour le coup d'envoi de ce Strasbourg-Nice. La suite de la 29e journée de Ligue 1. 20h43 dans l'intégral foot. On se concentre sur la fin de match entre Toulouse et Lille. Match à suspense et de nouveaux changements réalisés côté lillois. Romain Malric.
Ouais, on a changé tout le côté droit lillois avec les sorties de Mandy et Fernandez Pardo, auteur du premier but, les entrées de Meunier ou attention avec la tête défensive de Mackenzie qui a failli tromper son propre gardien. Ce sera un corner pour les Lillois. L'entrée d'Ethan Mbappé pour aller les Lillois à la place donc de Fernandez Pardo et corner donc pour les Lillois.
Il a déjà frappé ce coup franc, il est rentré, il a frappé un coup franc.
Ouais, il est rentré directement, c'est lui qui est allé de son pied gauche frapper le coup franc, très bien frappé d'ailleurs au point de pénalty. Tout le monde était monté, mais la tête du défenseur américain Mark Mackenzie qui a dévié ce ballon en corner. Alors les Lillois, ils prennent énormément de temps évidemment puisqu'on joue la 85e minute de jeu pour étirer ce corner en deux temps justement avec Sarraoui et Mbappé. Sarraoui qui met ce ballon dans la surface de réparation. Le ballon a été dévié de la tête par un Lillois ou par un Toulousain. Ce sera par un Toulousain puisque monsieur Brizard considère qu'il y a un nouveau corner de l'autre côté pour les Lillois. C'est Mbappé qui va aller le frapper. Il va trottiner tranquillement avec Sarraoui. Ils vont y aller à deux en pas
vraiment tranquillement. Ils y vont à deux à chaque fois.
Ils y vont à deux parce qu'ils jouent à deux le premier. Alors là, cette fois, évidemment, Yann Beau va venir pour défendre sur eux. Ils vont pas se faire avoir deux fois, les Toulousains. Et ils vont le jouer peut-être encore à deux. Mais surtout, sans trop se presser. Parce que le temps tourne en leur faveur pour les Lillois. Mbappé, finalement, le tir. C'est dévié au premier poteau par un Toulousain. Ça va revenir dans les pieds de Mbappé. Oh là là, Mbappé, le dribble. Dribble à droite, dribble à gauche. La
ça
frappe
ressemble à moitié à son frère.
Ah ouais.
C'était dans les dribbles, c'était son frère, mais dans la frappe, par contre, c'était raté. Et
c'est pour ça que je te dis à moitié.
C'était à moitié son frère. Il y a un changement également pour les Toulousains avec l'entrée de Noël Djouma, qui est la nouvelle pépite offensive côté Toulousain. Il a déjà marqué deux buts cette saison sur ses deux entrées.
Aussi joueur à surveiller, très jeune joueur,
joueur à surveiller. Ah ouais. Pour l'instant, il a pas beaucoup de temps de jeu. Il mériterait d'en avoir un peu plus, mais ce sera sûrement un joueur qui va beaucoup jouer la saison prochaine du côté du TFC. Entrée de Zatch également. Il y a Vincent Siro qui est sorti et il me manque un joueur. Qui c'est qui sort Alors Zatch va remplacer Vincent Siro et
c'est Soiseau qui sort aussi, je crois.
Ah, c'est Soiseau qui est sorti. Ah oui, donc Donum passe complètement côté gauche. Il y a un changement de tactique. Les Toulousains innovent là au niveau tactique. Un 4-4-2 que Carles Martinez-Noël n'avait jamais fait depuis le début de la saison. Et là, on compose un petit peu avec ce qu'on a pour essayer d'aller égaliser. On joue la 87e désormais.
Je trouve que c'est bien joué de sa part.
Et la sortie d'arrivage.
Il
n'y
a pas grand chose à perdre, surtout. Il n'y a pas grand chose à perdre désormais pour les Toulousains. Donc autant mettre le plus de chances de leur côté pour aller égaliser. Et Beto Marsico qui est
sorti aussi. Pas mal ce Beto Marsico. Roland, ça t'a fait rêver Beto Marsico.
Ah bah oui.
Ah ouais, la génération.
Le plus gros mangeur de pizza de tout Toulouse.
C'est ce que j'allais rajouter.
C'est un régime à la pizza. Régime à la pizza.
C'est fou ça quand même. Tiens, juste allons faire un détour par la Ligue 2 Grenoble PFC parce qu'on est dans le temps additionnel de la première période, Jérémy Donzé.
Et c'est la mi-temps tout pile ici, voilà. Benoît, cet avantage pour le Paris FC. 1-0, le but signé Samir Chergui à la 12e. Quelques petites étincelles en fin de première période. Ça s'était un peu calmé depuis l'ouverture du score dans le premier quart d'heure. Les petites étincelles venues notamment de Théo Valls qui a a obligé Nkambadio, le gardien parisien, à se coucher sur sa droite, à repousser un ballon en corner. Et puis une frappe lumineuse de Vincent Marchetti qui a obligé cette fois-ci Mamadou Diop à une belle envolée pour repousser là aussi en corner. Anniversaire un petit peu gâché pour l'instant ici au stade des Alpes. On rappelle qu'on fête les 30 ans des Red Chaos, le groupe d'ultra Grenoble qui met l'ambiance depuis le début de cette rencontre, de cette soirée. Mais pour l'instant, c'est le Paris FC qui mène 1-0, qui provisoirement reprend sa deuxième place en Ligue 2.
N'a pas fait le break, donc la deuxième période est peut-être encore une période avec la possibilité pour Grenoble d'égaliser.
Merci Jérémy, on la suivra sur RMC dans l'After Live, la seconde période donc entre Grenoble et le PFC. Les Parisiens sont devant à la pause. 20h48, on se concentre entièrement sur ce Toulouse-Lille. Les dernières minutes en intégralité sur RMC, c'est la suite de la 29e journée. On rappelle la victoire de Monaco 3-0 contre Marseille cet après-midi. Monaco reprend la deuxième place de Ligue 1 ce soir à 21h05. C'est Strasbourg-Nice, le corner à venir dans ce Toulouse-Lille. Romain.
On joue la 88e. Les Toulousains sont revenus dans la surface de réparation. Le centre de Cresswell a été contré. Corner est joué en deux temps avec Donnarumma. Attention, ça mêle les pinceaux là face à Mbappé. Finalement, il a pu jouer en retrait. C'est dommage parce qu'il y avait un ballon à mettre dans la surface. Tout le monde était monté. Et au final, ça va être compliqué, même si ce centre au deuxième poteau a failli être repris par Sidy B. C'est toujours un peu frustrant. Et pour le public et même pour les commentateurs, honnêtement,
quand
il y a
nul.
Des corners qui sont jouer comme ça en deux temps, mais sans que le ballon n'arrive dans la surface de réparation, alors que vraiment tout le monde est monté. On a fait monter les grands, on prend même un risque en le jouant.
T'es content quand t'es défense en centrale là, ça c'est vrai.
Ah ouais, je sais pas, coach, ce que t'en penses,
mais
c'est... j'imagine. Non mais après qu'il y ait une combinaison pour tromper l'adversaire, ça se joue en deux temps pour faire sortir le bloc, mais qu'à un moment donné le ballon revienne, pourquoi pas. Mais souvent j'ai eu des corners où le ballon revenait quasiment jusqu'au gardien. C'est là je vois pas l'intérêt.
Bon, surtout pas quand t'es mené.
Vient d'arriver, mais
ouais. Surtout absolument. Quand t'es mené. Bon,
exactement.
Les calculs qu'ils font, c'est de perdre du temps parce qu'on se languit que l'arbitre s'y fout la fin.
Oui, mais j'espère que c'est pas le cas des Toulousains qui sont menés 2-1 alors qu'on rentre dans les... Il y aura 5 minutes de temps additionnel. On rentre à l'instant dans les arrêts de jeu. 2-1 donc pour les Lillois qui vont peut-être s'offrir une jolie victoire à l'extérieur pour les relancer vers la Coupe d'Europe.
Des Lillois qui ont beaucoup souffert ce soir. On verra si cette victoire se confirme. 2-1 donc on l'a dit dans la souffrance, Roland. Si jamais ça gagne à Lille, à quel point tu accordes cette victoire et quelle importance tu donnes au match de Chevalier qui a sauvé Lille plusieurs fois dans la partie.
Disons qu'une fois de plus, c'est pas dans ce match-là que je ne regarderai pas l'importance d'un gardien de but, et je le dis, je le redis et je le redirai toujours dans une équipe de football. Mais c'est sûr qu'en cas de victoire, puisqu'il y a encore 5 minutes à jouer, en cas de victoire, le Lille-Marseille devient pas seulement intéressant, il devient tout simplement décisif.
Ce sera
décisif.
Le week-end du 4 mai.
Tout à fait.
Eh oui.
Ça sera sûrement un match décisif. Lille qui va se recevoir à la JOCR avant de se déplacer à Angers. Et après, deux matchs importants, la réception de l'OM et le déplacement à Brest aussi, parce qu'on les oublie un peu, les Brestois, mais avant leur match de demain, c'est la huitième équipe qui peut encore espérer quelque chose.
Lille-Brest, ça sera la dernière journée, c'est ça ?
L'avant-dernière journée, parce que la dernière journée, non, c'est Brest-Lille, ça sera en Bretagne, et la dernière journée, Lille reçoit Reims.
Reims qui est en finale de la Coupe de France.
Oui, mais Reims qui est barragiste pour le moment en Ligue 1, donc qui a une fin de saison sous tension aussi.
Oui, mais bon, en compte, Reims, ils viennent de prendre 6 points entre les 3 points à Lens et les 3 points.
Ils sont plus barragistes, ils ont gagné hier.
Maintenant, ils respirent un peu plus.
C'est vrai, ils ont gagné à Lens pour faire mal à Will Steel.
Et ils vont recevoir Toulouse la semaine prochaine.
Les dernières secondes, Romain, avec Toulouse qui tente d'égaliser tout de même.
Oui, qui tarde à mettre ce ballon, qui essaie de construire son attaque. C'est plutôt bien vu, mais il va falloir mettre un peu d'intensité et surtout changer de rythme. Côté Toulousain, on essaie de contourner la défense et le contrôle raté de Djuma et la bonne défense de Benjamin André. Tous les Lillois sont dans leurs 30 derniers mètres. Les Toulousains essayent de contourner ce bloc. C'est compliqué, encore une fois, la récupération du capitaine. Ah non, c'est pas Benjamin André, pardon, je l'ai confondu. C'est Sahraoui qui récupère récupère ce ballon, la contre-attaque peut-être pour les Lillois, il y a un 2 contre 1, oh, il l'a pris dans les talons, Akpom l'a pris dans les talons, ça annule cette peut-être occasion de but, tiens, il y avait un 3 contre 1 à jouer pour les Lillois, mais Akpom il repart à l'attaque et personne ne vient l'arrêter, il continue, il va rentrer dans la surface de réparation, non, il peut donner à Sahraoui qui va pouvoir frapper, la frappe de Sahraoui, la parade, enfin une de Guillaume Rest, du pied,
un gardien qui arrête le tir.
Ah ben ça fait du bien, et le public du stadium d'ailleurs le salut et Joshua King a essayé de repartir à l'attaque tout seul pour les Toulousains, mais il s'est fait contrer par Benjamin André. Cette fois c'était vraiment le capitaine lillois. On se rapproche de du petit fait final.
Elle aurait pu être vraiment incisive et définitive cette action là de Lille.
Ouais, ça aurait été, là vraiment, ça aurait été une réussite insolente de la part des Lillois que de marquer sur leur troisième frappe de la soirée. Mais bon, c'est ainsi. Heureusement, Guillaume Rest était sur la trajectoire et de son pied gauche, il a pu repousser ce ballon. Le ballon est dans les bras de Lucas Chevalier qui va prendre son temps, évidemment, pour dégager ce ballon, long ballon. Je surveille monsieur Brizard qui met du temps à siffler la fin de la rencontre. Ça va laisser peut-être une dernière opportunité pour les Toulousains. Djuma, il a essayé de partir tout seul. Il s'est heurté à Ismaili, le solide défenseur brésilien lillois. Et les Lillois peuvent repartir avec le ballon et sur le côté droit avec Mbappé et avec Thomas Meunier. Non, Mbappé préfère y aller tout seul. Il a essayé de servir André Gomez. Elle est dure, elle est dure. Il y avait peut-être mieux à faire pour les Lillois qui cachent quelques opportunités. C'est vrai, un parpaing ou une saucisse. C'était difficile à contrôler pour André Gomez. Allez, un dernier ballon pour les Toulousains. Pourquoi pas la longue transversale de Caceres, la déviation de Cresswell qui est resté aux avant-postes. Il a pris ce ballon, mais il n'y a personne pour la deuxième tombée. Et c'est finalement les Lillois qui repartent à l'attaque. Ouais, c'est récupéré par le bon retour de Joshua King.
C'est
un peu n'importe quoi à la fin de match. Ouais. C'est un peu n'importe quoi parce qu'il est tous à perdre trop vite.
Là, de l'égalisation de Toulouse, tu te mets un coup de marteau sur la tête. Hein.
Allez, Donoum sur le côté gauche, il va pouvoir centrer peut-être face à Meunier. Allez, il faut centrer. Il s'en mêle, il va pouvoir centrer deuxième poteau. Lucas Chevalier court, ça revient sur Sidi B qui s'écroule dans la surface de réparation. C'est presque comique.
Ça a failli se faire, mais je pense que les carottes sont cuites.
Alors, il va surveiller, mais. Non, il n'y a pas pénalty. Et est-ce qu'il siffle la fin du match? Oui, la fin du match a été sifflée par monsieur Brizard. Je raconte la dernière action avec Noé Djuma qui récupère au second poteau, qui remet dans l'axe. Et Djibril Sidi B, je ne sais pas honnêtement s'il touche ce ballon ou pas, mais il s'écroule dans la surface de façon un peu honteuse et un peu provocatrice pour essayer de gagner un pénalty, mais ça n'a pas convaincu monsieur Brizard qui siffle la fin de ce match. Victoire donc des Lillois de Buzyn. Les buts de Fernandez, Pardo et Becker en première période, le but de Cresswell pour les Toulousains, mais ça ne suffira pas malgré la domination, malgré les occasions et les poteaux, mais surtout parce que Lucas Chevalier était présent dans les buts lillois et permet aux Lillois de prendre 3 points précieux pour la course aux places européennes.
Du côté de Marseille, on regarde Lille, et maintenant du côté de Marseille, ils vont regarder Strasbourg.
Quand tu commences à souhaiter les faux pas de tes concurrents directs, c'est que ça va pas.
Eh ben oui, et pourtant, il y a quelques semaines de ça, c'était tranquille.
Il y avait 5 points d'avance à la deuxième
place. Salut les amis.
Merci Roland, salut. Merci à Romain Malric, bonne soirée à toi.
Bonne
soirée. Victoire lilloise à Toulouse, victoire précieuse du LOSC ce soir, la 29e journée de Ligue 1. Un point sur le classement parce que ça devient très intéressant. Monaco, 2e de Ligue 1, 53 points. Marseille, 3e. 52 points, le résultat de l'après-midi, la victoire de Monaco 3-0 face à l'OM. Lille est 4e avec 50 points. Strasbourg qui joue dans moins de 10 minutes est 5e avec 49 points. Si jamais Strasbourg s'impose, Strasbourg reviendra à hauteur de l'OM. Ça va nous faire une fin de saison passionnante, mais Nice n'a pas dit son dernier mot. Nice doit également réagir et mettre fin à cette passe difficile. Tout cela vous allez vivre dans l'After Live avec Thibaut Giangrande qui est là. Salut Thibaut.
Salut Benoît, ça roule.
Il est beau ce Strasbourg-Nice.
Ouais, franchement, ça m'excite, surtout après le Lens-Reims qu'on s'est fait hier. On va pas se mentir, on est content ce soir.
C'est vrai.
Jimmy Cabot sera là pour sa grande première dans l'After Live, lui l'ancien Lensois justement. Ouais. On va vivre ensemble ce match pour la Ligue des Champions. C'est fou ou pas quand même? quand même. Strasbourg-Nice, match pour la Ligue des Champions. On va vivre ça en direct. On fera également tout au long de cette soirée un point sur tous les matchs à l'étranger. Puis après l'after jusqu'à minuit avec Jimmy Cabot et Kevin Diaz. Et on vous attend nombreux au 32-16. On parlera peut-être 3-4 minutes de l'OM ce soir.
Un petit peu quand même.
Ouais, 3-4 minutes. Okay.
Ouais. Parce que le standard va prendre feu.
Oui, possible.
32-16, ça va être terrible. Allez, bonne soirée à tous.
RMC, l'After Live.